Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans les débats d'Europe Soir, week-end avec au programme la primauté du droit national face au droit européen. C'est la Pologne qui a lancé la bombe avec la décision du tribunal constitutionnel à Varsovie de dire que non, le droit de l'Union européenne n'a pas la primauté sur le droit polonais. Et de fait, plusieurs dispositions de traités européens sont contraires à la loi fondamentale du pays. Panique à bord, colère d'Ursula von der Leyen qui monte au créneau, qui dit qu'elle fera respecter les principes fondateurs de l'ordre juridique de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce sont les Polonais qui massivement sont sortis dans les rues pour manifester leur intérêt à rester dans l'Union européenne, dans l'Europe. L'homme fort du pays, Jarosław Kaczyński, indique qu'il n'y aura pas de polexit, que tout cela est une invention relevant de la propagande, mais qu'il y a bien une instrumentalisation des pays forts de l'Union comme l'Allemagne et que la Pologne souhaite rester un pays souverain. Fait remarquable ce matin sur Europe 1, Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle, a soutenu la Pologne dans sa décision de faire valoir son droit national face au droit européen. Avec Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils sont désormais trois à l'affirmer. La question vaut d'ailleurs pour nous en France. Devons-nous faire nous aussi prévaloir le droit français face à l'Union? Et in extenso, cette question, quel avenir pour l'Union européenne? On en parle dans la première partie des débats. Après le journal de 19h, jamais Paris n'a été aussi sale. Des poubelles qui débordent, des déchets par terre, les photos, les Insta, comme on dit aujourd'hui, font le tour du monde. La ville lumière, sale pour 84% de ses habitants, très sale pour 39%. Mais que fait Anne Hidalgo? Nous poserons la question. En fin d'émission, un passage par le cinéma, Mourir peut attendre, 25e opus de la série 007. Question simple, faut-il aller voir le film? Beaucoup de polémiques autour de ce dernier épisode avec Daniel Craig, qui pourtant s'est fait attendre à cause du Covid. On va essayer d'en parler tout en se gardant d'en révéler les tenants, les aboutissants. Le film est à l'affiche depuis mercredi. Les invités de ce soir sont Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, Philippe Doucet, membre du Conseil national du PS, mon confrère du Figaro Alexandre Devecchio et Georges Fenech. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Dans l'actualité de ce dimanche également, manifestation en Pologne, manifestation en Tunisie. Ils étaient 6000 à Tunis, dans la rue, à protester contre ce qu'ils appellent le coup d'État du président Kais Saied. Depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs fin juillet, une manifestation une semaine après une démonstration de force en faveur du président avec plus de 10 000 de ses partisans dans les rues. Ce chiffre sur l'immigration clandestine en 48 heures entre vendredi et samedi, 1115 migrants ont été secourus ou interceptés en Manche à bord de petites embarcations. Sujet de tensions régulières entre la France et le Royaume-Uni qui veut plus de contrôle de la part des autorités françaises. Hier, Gérald Darmanin a appelé à un traité migratoire. Le ministre de l'Intérieur a demandé à Londres d'honorer son engagement de payer 62 700 000 euros pour financer le renforcement des forces de l'ordre français sur les côtes. Le sport avec d'abord la Formule 1, c'est Valtteri Bottas qui s'impose et remporte le Grand Prix de Turquie sur Mercedes. Victoire devant Max Verstappen, deuxième, qui reprend la tête du championnat. Lewis Hamilton, après une belle remontée, le Britannique pénalisé hier au qualif, termine cinquième malgré une joute avec Sergio Perez qui complète le podium avec la deuxième Red Bull Honda. En cyclisme, le Français Arnaud Démare remporte le Paris Tour ce dimanche en devançant au sprint son compatriote Franck Bonamour et le Belge Jasper Stuyven. Le foot ce soir, c'est la finale de la Ligue des Nations. France-Espagne dans le Stade Saint-Cyrien de Milan. Coup d'envoi à 20h45. Rencontre à suivre, bien sûr, dans Europe 1 Sport. Il est 18h sur Europe 1. Merci d'être avec nous.
Europe Soir Weekend, 18h-20h.
Pierre de Villeneuve.
Depuis une semaine environ, la Pologne est sous le feu et le feu des projecteurs. Son gouvernement conservateur a remis entre les mains du tribunal constitutionnel une épineuse question. Qu'est-ce qui prévaut? Le droit national ou le droit européen? Les juges suprêmes ont tranché pour la première option. Et depuis, le monde entier, notamment les pays voisins, ont trouvé un nouveau sobriquet. Polexit. Déjà vu, vous me direz, bien sûr, avec le Brexit. Oui, mais Les tenants, les aboutissants ne sont pas les mêmes. D'abord, seuls 5% des Polonais souhaitent sortir de l'Union. Aucun référendum n'a été fait là-dessus depuis le vote sur la Constitution européenne en 2005, ce qui n'a pas empêché des centaines de milliers de Polonais de sortir dans les rues ce dimanche pour protester contre un éventuel Polexit. Voilà, vous entendez le reporter en direct dans une de ces grandes villes polonaises, reporter de la chaîne d'infos en continu TVN24, manifestation de Gdansk à Zakopane, dans les plus grandes villes, Varsovie, Poznań, Katowice, Cracovie, etc., avec des manifestants aussi pour la souveraineté et donc contre la primauté du droit européen. C'est sur cette opinion que s'est rangé le candidat Arnaud Montebourg, interrogé ce matin au Grand Rendez-vous d'Europe.
Je crois que l'affirmation qu'une constitution est supérieure et doit être supérieure aux décisions qui sont prises par l'Union européenne, pour moi, c'est une évidence, presque une lapalissade. Je n'ai aucune sympathie pour le gouvernement polonais. Néanmoins, le fait qu'un État membre aujourd'hui veuille réaffirmer la suprématie de sa loi nationale me paraît être le chemin que la France doit emprunter.
Arnaud Montebourg, ce matin au Grand Rendez-vous, Europe 1, CNews, Les Échos, dirigé par Sonia Mabrouk. Arnaud Montebourg, qui rejoint donc deux autres, Marine Le Pen et Éric Zemmour, sur ce côté-là. On le sait, pas que.
Non, Alexandre Xavier Bertrand est également sur cette position-là. Il me semble que Michel Barnier aussi, ça fait partie de leur proposition. Donc, non, c'est pas seulement l'extrême droite. Ou ceux qu'on appelle l'extrême droite qui réfléchissent à ça. Donc ça fait, si je compte bien, 5 candidats qui mettent la question sur la table.
Alors on parle d'une polémique, mais est-ce que finalement ça fait pas du bien d'entendre par là aussi que le droit français peut prévaloir merci.
Ça paraît même assez assez logique que le droit français, on n'a pas élu de juge européen que je sache, et ça paraît logique que les lois françaises priment sur les lois européennes. L'Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande, dans un arrêt du 5 mai 2020, affirmait la même chose, que le droit allemand devait prévaloir sur le droit européen. Et ça s'inscrit, je crois, dans une vaste question sur ce qu'est la démocratie aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, on peut aimer ou pas aimer le gouvernement polonais, mais aujourd'hui, c'est lui qui
défend... C'est ce que dit Arnaud Montebourg, d'ailleurs. Il dit « j'ai pas de sympathie pour le gouvernement polonais ».
À mon sens, qui défend la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est d'abord la souveraineté populaire, certes avec un certain nombre de contre-pouvoirs, mais je trouve que l'évolution de ces dernières années, c'est que ces contre-pouvoirs ont pris trop de poids, avec un conseil constitutionnel qui bloque systématiquement un certain nombre de lois. On voit que ça entrave la possibilité d'agir des politiques. Et quand, en plus, c'est à l'échelle européenne, avec une Cour de justice européenne qui voudrait s'ériger en Cour suprême européenne, alors que il n'y a aucune base juridique pour cela et aucune base démocratique pour cela, oui, on est dans une forme de coup d'État des juges.
Que dit le magistrat Georges Fenech là-dessus ?
Non, je ne partage pas cette opinion, même si j'entends les arguments. Quel chemin doit-on prendre ? C'est la question de Montebourg. Il ne faut pas prendre un chemin, dit-il, qui consiste à finalement céder un peu de sa souveraineté au profit des instances européennes. Mais si on suit ce raisonnement, qui effectivement aujourd'hui... rencontre un certain succès, notamment auprès de plusieurs candidats, et pas uniquement la droite nationale ou extrême droite, puisqu'effectivement, Barnier, qui était quand même le champion de la défense européenne, se retrouve aujourd'hui le champion de la remise en cause des décisions et de la suprématie européenne. De deux choses l'une, soit on est en Europe, soit on sort de l'Europe. Hein, y a pas... Là, c'est une forme de Brexit juridique.
Vraiment ?
Ah oui, si effectivement vous considérez, alors que c'est quand même une jurisprudence bien établie jusqu'aujourd'hui, que le droit européen n'est plus, ne s'impose plus au droit national, il faut quand même bien voir que le droit européen, ce n'est pas un droit hors sol, hein, c'est un droit qui est construit par les États membres. Mmh. C'est des traités qui ont été approuvés. L'article 55 de la Constitution parle de la force du traité.
Est-ce qu'il a été approuvé dès le départ que le droit européen prévalait sur le droit national ?
Ben, ça résulte d'une jurisprudence très ancienne de la Cour de justice de l'Union européenne et qui n'a jamais été remise en cause jusqu'aujourd'hui. Et ça se traduit par, effectivement, dans des décisions de justice, notamment Par exemple, lorsqu'un un justiciable considère qu'une loi interne, la loi française, n'est pas conforme aux principes européens, aux traités européens, le juge, et d'office, il peut le faire lui-même, d'ailleurs, il peut soulever la question préjudicielle et interroger l'Europe sur la conformité d'une loi. Et donc, il peut, c'est vrai que c'est un pouvoir très important, le juge peut écarter une loi interne au bénéfice d'une norme supérieure. Encore une fois, si on remet en cause ces principes, c'est un Brexit juridique qui est le...
Un polexit, du coup.
Oui, un polexit ou
un
frexit.
Ou un bruxellesit.
Voilà. C'est la remise en cause des traités. C'est le commencement de la fin de l'Union européenne.
Non, je pense que ça va... Pardonnez-moi. Je pense que ça va même plus loin que ça, le sujet. En fait, c'est pas tant est-ce que la Pologne veut sortir ou pas de facto, hein, parce qu'en fait, c'est ça, de l'Union européenne. Mais en fait, le risque, c'est que la Pologne sort, dans les faits, de l'état de droit. Et c'est de ça dont il s'agit en réalité. Une des dernières provocations, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'on parle quand même de l'état de droit de l'exécutif en ce moment polonais.
Enfin, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, il peut y avoir un état de droit en Pologne sans forcément un état de droit européen en Pologne.
Mais parlons du point bloquant. Pourquoi l'Union européenne a regardé ce qui se passait en Pologne, et notamment au regard des valeurs, des normes européennes et des règles judiciaires européennes. C'est qu'il y a une réforme judiciaire en cours en Pologne, avec notamment dans cette réforme judiciaire, la création d'une chambre disciplinaire de la Cour suprême qui serait chargée de superviser les juges. Et là, la Cour européenne a dit très bien, mais nous n'avons pas les garanties nécessaires montrant qu'il n'y aura pas de sujet d'impartialité ou d'indépendance des juges. Et donc là, effectivement, se pose la question de l'état de droit. Ensuite, vous disiez à très juste titre tout à l'heure, oui, mais la démocratie doit primer. Eh bien, très bien si la démocratie doit primer. On l'a dit justement avant, la Pologne est rentrée dans l'Union européenne par un référendum. Mmh. Un référendum où il y a eu à peu près de 60% de taux de participation et le oui a gagné à 77%. Et là, on le voit encore, les Polonais n'ont pas forcément envie de sortir de l'Union 5%. Européenne. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi faire attention à ça. Rentrer dans l'Union européenne, c'est pas juste rentrer dans un club où on se serre la main et c'est trop cool d'être ensemble.
Et
c'est aussi défendre.
Pourquoi ça ne s'applique pas à l'Allemagne, par exemple ?
Je finis ma phrase. C'est aussi défendre des valeurs et protéger les peuples d'éventuelles dérives nationales.
Philippe Doucet.
Moi, je pense qu'il y a deux sujets dans cette affaire-là. D'abord, c'est un sujet très important. C'est pas un sujet médiocre. Premier sujet, il y a la question du rapport de la Pologne avec la question démocratique. Parce que qu'il soit dans l'Union européenne, qu'il soit pas dans l'Union européenne, le fait qu'ils veulent arrêter la séparation des pouvoirs exécutif-justice, c'est un sujet de droit, de démocratie, Union européenne ou pas Union européenne. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le rapport que nous avons au sein de l'Union européenne. Et c'est vrai que, par rapport à ce que M. Devecchio évoquait sur la cour de Karlsruhe, les Allemands... Oui. Hein, la Cour de Karlsruhe, c'est-à-dire leur conseil constitutionnel à eux, gardent un contrôle de fait sur les décisions européennes, ce qui n'est pas le cas du conseil constitutionnel français. Donc les Allemands, même si y a discussion en Allemagne, la Cour de Karlsruhe garde ce contrôle. Et deuxième élément que le Parlement français ne fait pas, et à tort, puisque ça avait été l'objet de discussions au Parlement quand nous y étions ensemble, c'est que le Bundestag allemand, dans ses commissions, étudie les directives de l'Union européenne en parallèle ou préalablement. Alors que nous, ce n'est pas le cas. Je rappelle qu'au sein du Parlement français, même si ça avait été une proposition qui avait été faite, il n'y a pas de commission Europe pour examiner les textes européens, ce qui est une erreur de fond. Donc, le sujet, là-dedans, on a un sujet démocratique, parce que si Arnaud Montebourg fait ses propositions, et d'autres, même Michel Barnier, c'est qu'on sent bien qu'il y a certes une Cour de justice de l'Union européenne, mais honnêtement, qui la nomme d'un côté, les États membres, mais on voit bien que la question démocratique au sein de l'Union européenne, je mets à part la Pologne, au sein des fondateurs, on a cette question-là. C'est-à-dire que les Français, si on veut qu'on continue à construire l'Europe et pas faire un Frexit, et je crois qu'Arnaud Montebourg était très clair, il dit « moi je veux pas de Frexit », c'est comment, sur un certain nombre de choses, on porte une Europe plus démocratique. De ce point de vue-là, peut-être qu'on aurait intérêt à regarder la proposition qu'avait fait Thomas Piketty il y a trois ans de mémoire, d'un Parlement de l'euro, où finalement il y aurait ceux qui sont engagés monétairement ensemble, eh bien qu'il puisse y avoir un contrôle démocratique oui. par des représentants des parlements nationaux
c'est-à-dire
sur l'Union européenne.
C'est-à-dire qu'on adhère à tout, y compris la zone euro, y compris la monnaie, etc.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le problème, c'est qu'on est entre deux eaux. C'est qu'on a transféré...
C'est le cas des Anglais. Donc, effectivement, les Polonais ont leur
monnaie. Ça s'appelle le fédéralisme, et ça, personne ne le souhaite. En tout cas, peut-être des politiques le souhaitent, et c'est très bien. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils l'assument complètement. Mais ça ne peut pas se faire sans l'aval des peuples. Et c'est tout le, et c'est tout le problème de la construction européenne. C'est qu'elle se fait, c'était la stratégie des petits pas par Jean Monnet. On fonctionne en intégrant un certain nombre de secteurs, en espérant qu'ensuite, de force, on sera dans l'obligation d'aller vers une, de faire le fameux grand saut fédéral. Or, on voit bien qu'il n'y a pas les majorités populaires pour faire cela. Maintenant, je pense que ça pose plus largement la question de l'état de droit. Je crois qu'on fait comme si l'état de droit était quelque chose de sacré et qui descendait quasiment du ciel. Non, l'état de droit, ça se construit, c'est la volonté des politiques d'abord, ça se modifie et j'espère, pour ma part, qu'il sera en grande partie modifié en France. Aujourd'hui, l'état de droit, ce qui fait qu'on ne peut pas, par exemple, expulser un réfugié qui est soupçonné de terrorisme ou qui est même reconnu comme une menace.
Si
le Conseil constitutionnel français a pris un certain nombre de mesures pour refuser ce type d'exclusion-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent
être... Pas d'accord, pas d'accord, là, dans l'Assemblée.
Il y a eu une décision très récente d'un réfugié qui était... accusé d'être une menace terroriste et le Conseil constitutionnel a refusé l'expulsion. Il y a des cas comme ça tous les jours, on l'a vu avec Notre-Dame de Nantes, etc. Donc il y a, à mon avis, aujourd'hui, il y a le droit à trop de poids et entrave le politique. C'est aussi une question qui se pose en France avec le Conseil constitutionnel français et ça se modifie. Ça peut très bien se modifier. Il y a d'ailleurs un certain nombre de candidats qui peuvent le modifier.
Je crois qu'on est un peu sur une pente assez dangereuse, parce que j'entends souvent, tous les jours pratiquement, remettre en cause l'état de droit. Voilà.
Pas l'état
l'état
de droit,
c'est ce qui nous protège. C'est-à-dire c'est ce qui protège les libertés individuelles, les personnes, contre un éventuel arbitraire de l'État. C'est ça, l'état de droit. Et on nous dit, et vous l'avez dit à l'instant d'ailleurs, vous avez parlé de coup d'état des juges. Mais enfin, les juges, ils sont là pour appliquer les lois et les traités internationaux. Ils sont nommés, alors vous voudriez quoi, des juges? Parce que vous dites que les juges ne sont pas des élus, donc ils n'ont pas
beaucoup plus loin que ça.
Les juges sont
quant au Conseil constitutionnel, il n'a pas tous
en même temps.
On remet même en cause l'impartialité, la légitimité du Conseil constitutionnel aujourd'hui en France, en disant c'est un conseil politique, il n'a pas légitimité propre, ils sont nommés, mais bien sûr qu'ils sont nommés. Ils sont nommés par des autorités démocratiquement élues.
T'as un problème politique, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, et c'est l'empire de la norme. Donc, à un moment donné, on n'a pas vraiment avancé par des sauts politiques, on avance par des sauts de normes. La difficulté de ça, c'est que soit, moi je ne suis pas dans une logique de repli national, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait un saut politique, soit on a un saut politique en avant, mais on fait de la politique. Et la politique, c'est-à-dire qu'effectivement, on dit au peuple, si on veut peser dans les affaires du monde face aux Russes, aux Chinois, aux Américains, soit on pense que les 67 millions de Français, certes, avec nos petits bras musclés, avec la potion magique, on peut tenir, on peut y arriver. Ça peut être un chemin, c'est ce que propose M. Devecchio et d'autres, un certain nombre de souverainistes français. Ça s'entend, c'est respectable, c'est un chemin. Moi, je n'y crois pas, parce que dans les affaires du monde, vu la violence qui est en train de monter partout, les confrontations, il y a intérêt à être fort. Et mine de rien, moi, je pense qu'il y a une civilisation européenne. J'aimerais toujours qu'on emmène les 67 millions de Français en Inde 3 jours pour se rendre compte que très vite, on est très européens entre nous. Comment on vit ça, donc. Mais par contre, il faut qu'on ait un saut politique. Tu ne peux pas faire qu'un saut par la norme. Et le problème du saut politique, c'est qu'il faut effectivement assumer, mais pas tout seul, parce que c'est une construction avec d'autres. Parce
que c'est autrement... presque un vœu pieux aujourd'hui, hein, quand je vois
c'est
la
peut-être
Bretagne
un vœu,
se retire,
mais...
la Pologne qui veut pas l'appliquer, des responsables français.
Peut-être, on verra, j'ai cru entendre que François Hollande, dans son prochain livre, propose qu'on sorte de l'Europe à 27, qu'on soit plus dans l'égide des 27, mais peut-être qu'il faut repartir sur les fondateurs de l'Europe,
c'est ce
qu'ils
que
ont les 6 ou 9 pays initiaux pour dire, à un moment donné,
si
est-ce qu'entre nous...
On est à la croisée des chemins aujourd'hui, et c'est de la survie, moi je dis, de l'Europe qui est en jeu aujourd'hui. Voudriez quoi? Voudriez supprimer la Cour européenne des droits de l'homme? Voulez-vous retirer de la Convention européenne
des droits de l'homme? C'est une possibilité, mais on peut en revoir.
Non, mais c'est pas possible.
Voilà, non, il faut le dire clairement.
Pourquoi c'est pas possible?
Non, mais c'est pas possible. En fait, c'est pas... Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de se dire qu'effectivement, il y a un sujet sur l'Europe, il faut reposer les bases, revoir comment cette construction européenne se fait. Voilà, par quoi... Enfin, remettons les choses à plat. Mais ça ne veut pas dire tout de suite, prenons le bébé et l'eau du bain et bazardons tout. Je pense que ce n'est pas du tout responsable dans le monde tel qu'il est et toutes les tensions géopolitiques que nous connaissons et dont nous avons énormément parlé au cours des dernières semaines. Donc oui, il faut pour moi, et vraiment, engager un chemin pour aller vers plus d'Europe, consolider nos acquis, voir effectivement dans quelle modalité le faire. Mais n'oublions pas, ce n'est pas un repli sur soi qui va nous permettre aujourd'hui d'affronter toutes les tensions qu'il y a dans le monde et faire en sorte que la France pèse. Parce qu'il s'agit vraiment de ça. Et notamment à l'heure où, et ça c'est une chance dans ce contexte-là, la France va prendre la présidence de l'Union européenne d'ici quelques semaines. Donc nous avons 6 mois pour amorcer une nouvelle démarche.
Pourquoi vous voyez Alexandre Devecchio ?
Non, bah c'est bien, ça va permettre d'avoir ce débat assez clairement. Après, moi, je pense qu'il faut une Europe politique, mais l'Europe politique, on l'obtient par de l'intergouvernemental, par de la coopération avec les chefs d'État, et pas en produisant de la norme et du droit. Je pense qu'on ferait beaucoup plus de politique s'il y avait un peu moins de normes et de droits. J'ai cherché, du coup, pour ne pas dire de bêtises, alors c'est une décision pas du Conseil constitutionnel, mais du Conseil d'État du 12 février. Du 12 février dernier. Voilà, l'administration voulait expulser un ressortissant russe d'origine tchétchène, on va être très précis, condamné pour apologie du terrorisme. Le Conseil d'État a jugé que l'apologie du terroriste n'étant pas un crime mais un simple délit, il n'y avait pas motif à le renvoyer chez lui. Et ça fait partie des choses qu'on peut réécrire, modifier, je pense.
C'est dans notre loi. Il faut qu'on modifie notre loi.
Mais oui, il faut modifier. C'est pour ça que je dis que l'état de droit, ça se modifie.
Vous permettez,
on dit la même
chose. Je parle de la loi, là. Ouais. Vous faites référence à une décision qui s'appuie sur une loi interne qui dit qu'un réfugié ne peut être expulsé que s'il encourt une peine ou qu'il a été condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement. On n'a qu'à modifier la loi. Là, c'est une question du législateur français. Vous voyez, vous dites, on remet en cause le Conseil d'État, on remet en cause le Conseil constitutionnel, on bazarde tout. Non! On ne fait qu'appliquer la loi interne voulue par le législateur français, en l'espèce.
On va continuer à trouver des solutions autour de cette table. Finalement, on va y arriver avec Georges Fenech, Alexandre Devecchio, Philippe Doucet et Prisca Thévenot. Restez avec nous, ce sont les débats d'Europe Soir.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot, le membre du Conseil national du PS, Philippe Doucet, mon confrère du Figaro, Alexandre Devecchio, et le magistrat Georges Fenech. Alors, résumé des épisodes précédents, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et on essaye d'avancer. Alors, le dernier épisode en date, c'était une joute entre Alexandre Devecchio et Georges Fenech sur la remise en cause de l'état de droit. Finalement, c'est la remise en cause d'une loi. Donc finalement, c'est quoi ? C'est la montagne qui a cause d'une souris.
Je dis juste que l'état de droit n'est pas en soi une fin. D'ailleurs, on peut rajouter Valérie Pécresse avec Patrick Stefanini qui demande aussi une réforme de la Constitution pour qu'il soit possible de limiter l'immigration, de procéder à un certain nombre de quotas. Donc il n'y a pas que moi qui veut modifier. Il ne s'agit pas de mettre totalement à bas l'état de droit, mais je constate que depuis quelques années, l'état de droit, en Europe encore plus, mais aussi en France, prend de telles proportions qu'il est de plus en plus difficile de légiférer sur un certain nombre de questions. Et moi, je pense que la démocratie, c'est d'abord et avant tout la souveraineté populaire. Il ne faut pas tomber dans la tyrannie de la majorité. Il faut bien des contre-pouvoirs. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans la tyrannie des minorités, dans la tyrannie du droit par rapport à la souveraineté populaire.
Vous voudriez quoi ? Vous voudriez qu'il y ait un état de droit qui puisse changer, comme par exemple, à un moment très précis de l'histoire américaine, on a créé Guantanamo. Et dans ce cas-là, ça a été un écart à l'état de droit ?
Oui, là, vous prenez l'exemple le plus polémique.
Mais de quoi parle-t-on pour la Pologne ?
On peut faire des choses légalement. On peut réécrire.
Guantanamo n'est pas dans l'état de droit. C'est justement parce que c'est à Cuba.
C'est hors territoire.
C'est hors territoire qu'en fait, l'état de droit américain.
Appelons un chat un chat, mais c'est comme les Américains qui l'ont fait.
Je dis simplement qu'une constitution, ça se réécrit, les traités européens, ça se renégocie, ça s'appelle faire
non mais,
la politique.
Non mais de quoi parle-t-on ? Non mais encore une fois, je suis vraiment navrée. On peut, quand on dit des grandes phrases comme ça, etc., il faut parler du concret. Là, en l'occurrence, on parlait de la Pologne. Et la Pologne, il ne s'agit pas simplement de dire la Pologne va décider de mettre des quotas ou de revoir sa politique migratoire. Il s'agit pour la Pologne de venir vraiment regarder ce que font les juges, éventuellement mettre en place des mesures disciplinaires par rapport aux juges, sans avoir aucune preuve de l'indépendance de l'exécutif.
Le débat existe en France sur ce cas
polonais.
Y compris le ministre de la Justice pense que les juges doivent être tenus responsables d'un certain nombre de choses. Donc je ne sais pas exactement quel est le dossier polonais, mais je me méfie toujours des accusations. Dire qu'ils veulent abolir la séparation des pouvoirs, ça me paraît un peu gros.
Après, derrière, on voit bien que c'est quand même un régime tout à fait particulier en Pologne aujourd'hui qui est en train de sortir d'une logique démocratique au sens où l'Europe occidentale nous l'entendons. Et donc, la question de la Pologne, qu'ils soient dans l'Europe ou pas dans l'Europe, il y a une discussion interne, je pense qu'il y a des manifestations, en train de vouloir sortir d'un état de droit au sens occidental que nous entendons, quelle que soit l'histoire des règles européennes. Sur l'histoire de l'Union européenne, sur l'histoire, par exemple, de ce que vous évoquez à propos de Valérie Pécresse, le problème qu'on a par rapport à ça, c'est peut-être, c'est pas qu'il y a trop d'Europe pour le coup, c'est que dans le cas des affaires d'immigration, nous n'avons pas de politique européenne en matière d'immigration. La réalité, elle est là. On en a des bouts, mais on n'a pas une politique cohérente. Peut-être que d'ailleurs Emmanuel Macron, qui va présider l'Europe pendant 6 mois, c'est peut-être un des sujets. Parce qu'aujourd'hui, qui croit sérieusement que si on remet des douaniers et de la police de l'air et des frontières à Perpignan et à Menton, que les questions migratoires de ceux qui seront arrivés par bateau en Italie, en Espagne ou je ne sais pas où, ou en Biélorussie, en Pologne par le biais de la Biélorussie, qu'un beau matin, on va refermer toutes les frontières et qu'on va contrôler tous ceux qui passent aux frontières. On voit bien qu'on a cette difficulté-là. Aujourd'hui, l'Europe est la bonne échelle pour traiter la question migratoire. Le problème, ce n'est pas qu'on la traite trop, c'est qu'on ne la traite pas au bon niveau et qu'on ne la traite pas. On a le traité de Dublin qui ne va pas, les Dublinés, ça ne fonctionne pas. On voit bien que la question des spots à l'extérieur de l'Europe n'est pas bien traitée. On a laissé Angela Merkel traiter avec les Turcs tout seul parce qu'on ne s'en est pas, nous, occupé au bon niveau. Donc,
L'Union européenne n'a pas mis le holà elle est en train de le faire avec la Pologne en ce moment.
Tout à fait, mais à ce moment-là, on a une agence Frontex qui a eu un peu plus de moyens mais qu'on n'avait pas avant 2015. Donc, dans ce cas-là, on a une vraie politique européenne migratoire.
Vous pouvez comprendre Kaczynski qui dit que c'est l'avantage des pays forts et notamment de l'Allemagne. Quand il y a un pays fort, on lui dit rien. Quand il y a un pays faible, entre guillemets, de l'Union européenne,
non, l'histoire de la Pologne, c'est encore autre chose. Par exemple, qu'on puisse être en désaccord avec le fait que Angela Merkel ait décidé toute seule de dire wir schaffen das, à ce moment-là, on peut le faire. D'accord. Ça, c'est une chose. Qu'on puisse reprocher ça ou être d'accord, c'est une chose. La question de la Pologne, c'est autre chose. La question de la Pologne, c'est qu'ils sortent de notre conception de l'État de droit. Il serait... Il serait de je sais pas quoi en Afrique du Nord, on dirait la même chose.
Je voudrais pour répondre à nouveau à Alexandre Del Vecchio en disant il faut il faut quand on parle de l'état de droit et qu'on envisage de le modifier, le faire d'une main tremblante selon l'expression juridique. Je pense que il faut, pour qu'on nous comprenne bien, c'est quoi cet état de droit ? C'est celui qui protège. Je veux dire, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne ont beaucoup d'intérêt pour ce qui est la notion de procès équitable. Par exemple, les droits de la défense. C'est ça, les droits. Les droits, c'est la défense, avoir le droit à un avocat, avoir le droit à une procédure contradictoire. Mais si la Convention européenne, certains veulent sortir de la Convention des droits de l'homme. Cette convention, elle s'est bâtie au fil des générations depuis la création.
Les droits de l'homme, nous les avons inventés. On n'a pas besoin de l'Union européenne pour les respecter.
C'est la norme supérieure.
C'est une vision française revendique la volonté, la souveraineté populaire et des droits de l'homme.
C'est dans notre constitution. Les droits de l'homme en 1789.
En matière de justice,
pour le coup, ça, ils étaient souverains en 1789.
En matière de justice, la Cour européenne des droits de l'homme considère que le parquet français, le procureur français, n'est pas une autorité judiciaire. Parce qu'il n'est pas indépendant, voyez-vous. Ça ne nous a pas obligés et contraints à changer le statut du parquet. Ça fait partie du droit national, du droit interne. Vous voyez, même la France est critiquée.
Oui, j'allais vous le dire. C'est pour ça que je ne sais pas exactement ce qui se passe en Pologne, mais est-ce que en France, j'allais vous poser la question, qui nomme les juges du parquet ? On ne peut pas dire qu'en termes d'indépendance, ce soit parfait non plus. Vous l'avez dit vous-même.
Je suis d'accord, mais il y a une réforme constitutionnelle qui a été à chaque fois renvoyée parce qu'on n'avait pas les 3/5, qui prévoit un renforcement de la protection statutaire des parquets. Et on est mis en cause par la Cour européenne, mais ça ne nous a pas contraints non plus de changer nos lois.
Après, rien ne nous empêche, nous, de faire ce que le tribunal, enfin la cour de Karlsruhe, donc la cour constitutionnelle allemande, fait, c'est-à-dire d'examiner l'ensemble des lois et d'avoir éventuellement un débat. Mmh. Et je le redis, le Parlement français aurait intérêt à faire ce que fait le Parlement allemand. Mmh. C'est-à-dire à examiner l'ensemble des directives. Ça fait des années qu'on avait proposé qu'il y ait une commission. Il y a la commission des lois, la commission des affaires sociales. Il n'y a pas de commission d'affaires européennes dans le Parlement français.
La commission des lois examine quand même.
Oui, elle examine, mais tu sais très bien. La commission des lois, c'est déjà 40% de l'ensemble des lois qui sont traitées avec l'ensemble du dispositif. Donc, en fait, tu sais très bien, je crois que tu y siéges comme moi.
Des directives.
Je pense qu'on aurait intérêt à avoir au sein du Parlement français, comme l'ont les Allemands, un dispositif qui suit tout ce qui se passe au sein de la Commission européenne. Y compris parce que, effectivement, le fait que les députés français soient porteurs de la souveraineté populaire, soient porteurs de la souveraineté nationale, on aurait intérêt à avoir ces examens, y compris cette contestation, qui est un débat, ça me paraît essentiel. Je pense qu'on n'a pas assez de contestation et de débat des propositions des directives européennes.
Par exemple, je vais donner un exemple pour être concret, pourquoi le poids pris par la Cour de justice européenne et par les juges de manière générale me choque. Par exemple, c'est l'exemple qui me vient en tête, parce qu'on parle beaucoup de l'immigration en ce moment, mais il y aurait d'autres exemples, par exemple sur la GPA, mais l'exemple qui me vient en tête, c'est le fameux pacte de Marrakech, dont on dit qu'il n'a pas de valeur juridique. Or, aujourd'hui, on sait très bien que si un juge européen, par exemple, décide de faire que c'est un texte qui a une valeur constitutionnelle, dire finalement c'est un texte qui va dans le sens des droits de l'homme, etc. Et dans ce texte, il y a un certain nombre de contraintes et qu'il y a une jurisprudence européenne là-dessus, elle risque de s'appliquer en France. Pour moi, c'est une dérive. Personne n'a voté pour ça et c'est un pouvoir incroyable que s'arroge le juge. Et je me demande, enfin, je serais politique, je serais quand même très agacé que des juges empiètent ainsi sur mon prérogative. Ils sont là pour appliquer la loi. Or, de plus en plus, ils produisent du droit.
Mais dans ce cas-là, ce que j'aimerais, pour le coup, c'est que ce soit vous ou d'autres, en tout cas les femmes et les hommes politiques, dans ce cas-là, que ce soit Pécresse ou Bertrand ou d'autres, dans ce cas-là, proposer clairement de sortir de l'Union européenne.
Mais non.
Mais vous pouvez, par exemple, pouvez dire, nous, on est pour rester dans le marché unique,
très bien,
mais ne pas appliquer un certain nombre de dispositifs. L'intérêt de la campagne présidentielle, c'est que ça peut être mis au débat.
C'est ce qui est en train d'être mis au débat. C'est ce que je disais. Non, tout n'est pas sacré.
Il est mis au débat que sur les questions migratoires. Le problème, c'est qu'à un moment donné, où on prend le paquet cadeau, mais on n'en prend pas qu'un bout du cadeau. Voilà. Donc où on se dit, on ne veut plus que les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent. Mais ça ne peut pas être à la carte. De ce point de vue-là, il faut reconnaître Arnaud Montebourg, il est plus large, il propose quelque chose de plus large, il dit c'est au moment de l'intérêt national. C'est au moins le mérite d'être clair.
Il y a une méthode. Le problème, je pense, de beaucoup de candidats, c'est qu'effectivement, c'est très long à renégocier les traités. Moi, je pense que ça se renégocie, c'est tout à fait légal et tout ça n'est pas sacré. Mais si on se lance là-dedans, effectivement, ça va mettre des années. Il y a quand même un moyen pour rappeler aux juges qu'ils ne sont que des juges et qu'ils ne sont que là pour appliquer la loi et non pour la faire.
C'est déjà pas mal.
C'est effectivement de faire des référendums. C'est la voie que propose un certain nombre de candidats. Effectivement, Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais aussi Xavier Bertrand et maintenant Valérie Pécresse. Et effectivement, ce serait un acte fort qui permettrait d'affirmer la souveraineté populaire.
Non.
Et ça ferait en sorte peut-être que certains juges aient eux aussi la main tremblante avant d'appliquer.
Valérie Pécresse Valérie Pécresse et les autres que vous venez de citer ne proposent pas un référendum sur l'Europe, mais sur l'immigration.
Oui.
Et on ne sait toujours pas les termes, parce que ça ne sera jamais une réponse oui ou non. Donc moi, je trouve que c'est de la belle phrase qui ne veut pas dire grand-chose et qui, en plus, ne va pas au fond des sujets. Donc je trouve que ce n'est pas extrêmement honnête dans un débat qui doit être mené et qui peut être mené. Ensuite, sur le sujet de la Pologne, moi, je suis navrée, mais c'est encore la même chose. La Pologne dit « je ne veux pas », et à travers ce que vous dites, « je ne veux pas qu'on m'impose les règles du club dans lequel je suis rentrée ». En revanche, et parlons très concrètement, quand il s'agit de bénéficier des euros du plan de relance, là, la Pologne dit « si, on en veut ». Donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi être responsable et grand garçon, dire « je rentre dans ce club, j'en respecte les règles, et si je ne veux pas respecter les règles, eh ben j'accepte de ne pas avoir de chèque derrière. »
En réalité, on a vu, tout le monde ne respecte pas les règles. Heureusement, les traités sont violés chaque jour, il faut quand même le rappeler.
Heureusement.
Schengen, oui, heureusement, parce que sinon, on n'en sortirait pas. Schengen, au moment de la crise du Covid, a été foulé aux pieds. Il a fallu rétablir les frontières. Et d'ailleurs, on était les seuls
Schengen,
à attendre que
Schengen
tout le monde soit
d'accord. Schengen permet le décrochage. Chaque pays peut décrocher quand il le souhaite.
Maastricht et le critère des 3%, aujourd'hui et heureusement n'est pas appliqué. Donc heureusement que tout ça n'est pas un carcan qui nous oblige totalement. Sinon, tous nos États seraient aujourd'hui en faillite.
Non mais aujourd'hui, quand on est sur l'histoire de la présidentielle, il n'y a pas besoin d'un référendum derrière. Si Valérie Pécresse, imaginons qu'elle soit la candidate ou Xavier Bertrand, je ne prends pas position dans ce fabuleux débat de la droite. Mais il suffit de dire devant les Français,
je vais
moi,
appliquer
président,
tel programme, voilà.
Je n'appliquerai plus les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne.
Bien sûr.
Les Français, ils achètent ou ils n'achètent pas. Mais c'est posé. Et à ce moment-là, il n'y aura pas besoin d'un référendum derrière. Tout le monde aura bien compris. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que l'élection d'un président ou d'une présidente de la République au suffrage universel,
Brexit, hein.
C'est posé, c'est clair, les Français s'expriment. Voilà. On évoquait là, hier ou avant-hier les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Voilà, François Mitterrand, 2 mois avant, a dit clairement « Moi, président, j'abolirai la peine de mort. » Les Français, quand ils ont élu François Mitterrand, ça faisait partie des propositions. Ils étaient d'accord, pas d'accord, ils l'ont accepté.
Non, parce que là, il y a une bataille entre le droit, justement, et la politique. Et s'il n'y a pas cet acte extrêmement fort,
les juges
prendront des décisions.
Non mais derrière, et par ailleurs, au-delà de la renégociation, si un président de la République, à 20h, il s'exprime en disant « À compter de maintenant, puisque j'ai légitimité populaire, parce que j'ai été élu, je décide de ne plus appliquer les traités, le traité instituant la Cour de justice de l'Union européenne », ils vont faire quoi à Luxembourg? Ils vont faire quoi?
Je suis heureux de vous l'entendre.
Voilà. Bah, voilà. Donc du coup, là, il y a une légitimité populaire. Mais dans ce cas-là, oui, mais le problème de ça, de Vecchio, c'est qu'en fait, tout ça, c'est d'une hypocrisie totale. Parce que qu'est-ce que fait Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand? Ils savent très bien que c'est extraordinairement compliqué. Mais ils veulent surfer sur la vague identitaire qui traverse la droite. Mais à la fin pour arriver...
Ça
voilà.
peut-être.
Mais à la fin, ils savent très bien qu'ils iront à Bruxelles dire c'est pas gentil, c'est mince.
Ça, je suis
voilà.
d'accord. Ils sont pas les seuls. François Hollande avait fait la même chose voilà.
Je crois pas qu'il est... Enfin, on verra. Il n'est pas encore candidat à président de la République cette fois-là.
La dernière fois, il avait été élu sur le TCE, etc. Il avait dit qu'il renégocierait. Il n'a pas renégocié.
Je ne vois pas en quoi les traités européens empêchent un pays comme la France d'avoir sa propre politique migratoire. Je ne vois pas ce qui nous empêcherait de modifier les flux migratoires, les quotas. On peut très bien le faire sans avoir à dénoncer quelques traités que ce soit. Je ne comprends pas vraiment cette question, voyez-vous. On agite des fantasmes en réalité.
De même sur la nationalité.
La Cour européenne de justice a toujours considéré que les questions de nationalité relevaient de la compétence des États. On peut très bien revoir l'accès à la nationalité, les conditions. On n'a pas besoin de dénoncer les institutions.
Alors,
je vais prendre un exemple précis. Je vais lui répondre précisément. Essayez, parce que je connais moins le droit que vous, mais je suis sûr, comme vous êtes de bonne foi, vous allez me répondre. Par exemple, ce qui me vient en tête sur l'immigration, la directive retour. Que François Hollande a été obligé d'appliquer. On ne peut pas... avant, on pouvait expulser quand on l'avait décidé. Là, on est obligé de signaler, je crois, 3 semaines ou 1 mois avant. Vous m'arrêtez si je me trompe, parce que je peux être imprécis. Vous connaissez encore une fois mieux le droit que moi. Quelqu'un qui devrait être expulsé, on est obligé de lui dire... avant et qu'il s'en aille en réalité de lui-même. Vous voyez bien que c'est très compliqué et que c'est une procédure tellement compliquée que 80% des déboutés des droits d'asile restent sur le territoire. Ça fait partie, ce qui me vient en mémoire, un cas très précis qui est dicté par le droit européen.
Mais non, c'est simplement un manque de moyens si on n'arrive pas à refouler les étrangers. C'est parce qu'on n'a pas les moyens de le faire.
Une pause et ensuite Philippe Doucet, vous répondrez à Alexandre Devecchio et à Georges Fenech. Il y a Prisca Thévenot qui est là aussi, 18h37. Ce sont les débats d'Europe Soir. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et on continue à parler de la primauté du droit européen sur le droit national avec mon confrère du Figaro, Alexandre Devecchio, avec Georges Fenech, ancien magistrat, avec Philippe. Avec, pourquoi ancien? Magistrat, on est magistrat à vie. Philippe Doucet, membre du Conseil national du PS et la porte-parole de La République En Marche. Prisca Thévenot. Alors pendant la pub, on vous dit tout sur Europe 1, vous avez l'habitude. On parlait justement de la Pologne et la question que je posais et que je vous pose à tous les quatre, est-ce que du coup, le fait d'être un État ultra conservateur, ça a une limite à la présence dans l'Union européenne.
Mais encore une fois, je me permets, c'est exactement ce qu'on se disait, juste, vous saurez tout de la pub, c'est ce qu'on se disait juste avant. Ça dépend ce qu'on met derrière ultra conservateur. Là, encore une fois, le cas qui nous occupe en ce moment, c'est la Pologne. Et la Pologne, il s'agit de remettre en cause l'état de droit avec le sujet de l'exécutif versus le judiciaire. Donc ça ne remet pas en cause des fonctionnements internes sur des sujets secondaires, si je pourrais me permettre, mais c'est vraiment remettre en cause l'état de droit tel qu'on le conçoit au sein de l'Union européenne.
Et donc, c'est pour ça qu'on parle de
sortir.
On en parlait avant.
C'est pour ça qu'on parle de
sortir. Quelle est la loi précise qui est votée en Pologne en ce moment sur les juges?
Mais justement,
la loi
elle
précise,
est en train...
c'est que le parti majoritaire désigne à la majorité simple la Cour suprême. C'est-à-dire que comme si en voilà. France, En Marche nommés...
Monseigneur, on nomme Laurent Fabius au Conseil constitutionnel sur la simple volonté du président de la République.
Non, là, c'est de mauvaise foi, monsieur De Vecchio. Ça, c'est une polémique, le Figaro. Non, derrière, après, faut être... le Conseil constitutionnel est nommé... à la fois par un certain nombre de membres sont nommés par le président du Sénat.
C'est le Conseil national de la magistrature.
Oui, mais c'est l'équivalent.
Conseil supérieur.
Il y a la Cour suprême aussi. La première des lois, je vais vous le dire, parce que j'ai le texte sous les yeux. La première permet aux politiques de contrôler le Conseil national de la magistrature. Les 15 juges qui y siègent sont normalement nommés par d'autres juges et seront désignés d'après cette loi par un vote à la majorité simple du Parlement. Bon, ça c'est la première loi. La deuxième loi porte sur une refonte de la Cour suprême où tous les juges âgés de plus de 65 ans sont renvoyés, c'est-à-dire à leur large majorité, par l'actuelle présidente de la Cour. Voilà. Donc, ça, c'est les deux lois.
Pour être complet et pour pas qu'il y ait une désinformation de M. De Vecchio sur le Conseil constitutionnel français, le président du Sénat nomme, je crois que c'est 3 membres du Conseil constitutionnel, le président de l'Assemblée nationale, c'est 3, le président de la République, c'est 3. D'accord ? Et dedans, dans cette affaire-là, ça veut dire que comme ça tourne, puisqu'on n'a pas toujours eu le président de la République sous la même couleur, le président de l'Assemblée nationale sous la même couleur, et même le président du Sénat, donc le Conseil constitutionnel français est très divers politiquement.
Il le nomme après avis des commissions. Les commissions des lois.
Tout à fait, avis des commissions des lois. Donc, du coup, donc c'est pas la logique. Là, ce qui gêne en Pologne, c'est que le parti majoritaire, qui est un parti... ultra conservateur. Voilà. Donc, lui veut maîtriser, en fait, la nomination des juges, parce qu'un certain nombre de juges ont refusé qu'un certain nombre de lois considérées comme non démocratiques soient mises en place. Après, par rapport à ce qui était évoqué juste avant la pub, d'abord, en Pologne, vous pouvez avoir une législation anti-avortement, ça ne rentre pas dans le cadre de l'Union européenne.
C'est le droit interne.
Vous pouvez
c'est
avoir une loi contre la logique LGBT tant que vous ne taquez pas les droits humains, puisque l'Union européenne, c'est les droits humains. Et franchement, les Polonais, après ce qu'ils ont vécu sous l'Union soviétique, je pense que les droits humains, quand ils sont rentrés dans le Club Europe, ça les intéressait un tout petit peu, et pas simplement la question, les questions financières. Et pour répondre à votre question, un État ultra-conservateur, que ce soit sur les aspects économiques, que ce soit sur les aspects sociaux, peut être dedans. Le sujet, c'est de respecter l'état de droit et notamment les droits humains. Mais franchement, nous Français, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui avons inventé, si je puis dire, les droits de l'homme, on a plutôt envie d'être dans un club où tout le monde respecte les droits de l'homme. Autrement, on n'a pas envie d'être dans un club.
Simplement, je ne sais pas si ça présente un intérêt, je le dis quand même. On critique beaucoup cette réforme polonaise donc, qui semble mettre la main sur la nomination des juges. Je voudrais quand même rappeler qu'en 2008, en France, qui était le président du Conseil supérieur d'administrature ? C'était le président de la République. Qui était vice-président du Conseil supérieur d'administrature ? C'était le ministre de la Justice. Et qui a fait la réforme 2008 ?
Nicolas Sarkozy. Mais merci de votre honnêteté. Donc, la France était une démocratie avant 2008, je pense.
Et pourtant, vous voyez, on avait un système comme ça aussi, où c'était l'exécutif qui était chargé de vérifier le respect de l'indépendance de la justice. Donc,
La France était dans l'Union.
Aujourd'hui, c'est le premier président de la Cour de cassation qui est président.
Et donc, on est en train de se reprocher d'avoir évolué, c'est ça ?
Non, on a bien aimé, mais je veux dire, balayons aussi devant notre porte. On critique beaucoup la Pologne, qui veut faire un système un peu comparable à ce qu'on avait jusqu'en 2008.
Il ne s'agit pas de critiquer simplement. Il s'agit de mettre en garde. Encore une fois, là, ce qui a été dit, c'est l'ensemble des critères ne sont pas réunis pour garantir une indépendance. C'est ça le sujet. Donc il ne s'agit pas tout de suite de dire, au contraire, même Clément Beaune l'a répété, ministre en charge des relations européennes, l'a répété. L'objectif, et en tout cas le souhait de la France, n'est absolument pas que la Pologne sorte de l'Union européenne. Pas du tout. Mais il s'agit quand même de pouvoir dire, entre nous, dans un club, attention, là, il y a peut-être une défaillance, là, peut-être, il y a une dérive. Et voilà.
Prisca Thévenot, soyons clairs, Clément Beaune le dit aussi parce que, et je vous le dis à tous les quatre, vous le savez, la Pologne est l'usine européenne. Nommez-moi un pays européen qui n'a pas usine, une usine de quelque chose en Pologne. C'est-à-dire que c'est quand même un pays qui fabrique pour les autres pays européens.
Oui,
le jour où la Pologne sort de l'Union européenne...
Elle n'a pas le plan de relance. Elle n'a pas le plan de relance. Elle en a besoin. Mais qu'est-ce que font les usines?
Non, mais je ne vais pas faire mon Arnaud Montebourg, mais en sens inverse, la Pologne a beaucoup bénéficié de l'Union européenne.
Bien sûr, non seulement financièrement.
Mais par contre, les travailleurs français, eux, ils ont pris cher parce que le nombre de délocalisations qui ont eu lieu, et j'ai encore vu une entreprise à Argenteuil qui a déménagé en Pologne. Donc, effectivement, salaire plus bas. Et je ne parle pas là des, du plombier polonais qui venait travailler en France. Je venais là des usines entières françaises qui sont parties en Pologne.
Vous parlez directement à des gens comme Carlos Tavares. Et si vous lui dites demain, le patron de Stellantis, que son usine qui actuellement est en Pologne va se trouver, je ne sais pas, dans la Drôme ou quelque part dans le Morbihan, évidemment, la voiture va coûter...
Vous voyez bien, par rapport au début de notre discussion, que dans le problème d'un certain nombre de Français aujourd'hui avec l'Union européenne, le fait que d'avoir le sentiment de jouer le jeu et qu'à la fin, les classes populaires en France ont pris très cher avec les délocalisations. Donc, je veux bien que M. Tavares se dise, et c'est normal, il est patron de Peugeot et de tout ce qui est autour.
S'il y a bien quelqu'un qui est européen, c'est Carlos Tavares.
Voilà, bon, donc il peut se dire ça. Mais en attendant, on voit bien qu'on a un problème de concurrence sociale, fiscale au sein de l'Europe qui pose un problème. Donc, que les peuples, y compris le peuple français, une logique de défiance par rapport à l'Union européenne, quand on voit que le Luxembourg et pratique la fraude fiscale légale. Quand je vois avec les Pays-Bas, on a des entreprises françaises dont le siège est installé à Amsterdam parce qu'ils peuvent ne pas payer d'impôts sur les sièges, etc.
Je me pose la question, ça pose des sujets. Que restera-t-il de l'Europe? Déjà, nous n'avons pas d'Europe de la défense, c'est clair.
Les seuls, on en parle beaucoup pourtant.
Les seuls soldats qui vont au sacrifice, c'est les soldats français. Nous n'avons pas de politique étrangère. Pas de véritable politique étrangère commune, il faut quand même le dire, de l'Union européenne.
Ouais, on n'a pas beaucoup entendu nos voisins européens sur l'histoire des sous-marins.
Par exemple, on n'a pas été très soutenus, évidemment.
La présidente de la commission quand même est intervenue. On n'a pas de politique européenne sociale,
on peut le dire. Il n'y a pas d'alignement, Il nous reste une Europe quand même juridique basée sur les valeurs universelles, celles pour lesquelles on s'est engagé, sur ces grandes valeurs, ces chartes, ces traités que nous avons co-signés avec les autres. Si on sort de la norme, la suprématie de la norme juridique européenne en laissant faire les États chacun ce qu'ils veulent, en portant atteinte à ce qui, pour nous, est le cœur de la démocratie, la séparation des pouvoirs par exemple, ça veut dire qu'est-ce qui reste de l'Europe, quoi ? Franchement,
je pense que pour le coup, on touche, parce que là, on fait beaucoup de droit, on touche aussi à deux philosophies en réalité de l'Europe qui s'opposent et qui, à mon avis, on peut être manichéen et dire certains sont des démocrates et pas les autres. Moi, je crois qu'il y a surtout deux visions du monde. Il y a une Europe occidentale, hyper individualiste. Mai 68 en France, c'était la révolution des droits individuels. Mai 68 en Europe de l'Est, c'était la lutte contre le joug communiste. Donc tout ça pour dire que c'est des États qui ont recouvré leur souveraineté
avec les
après,
événements à Prague notamment.
Leur souveraineté après en avoir été privés pendant des 70 ans, des décennies, et qui du coup ils sont peut-être plus attachés que nous et qui dans ce qui est des droits de l'homme. Il ne s'agit pas de remettre en cause la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on oublie d'ailleurs, et du citoyen de 1789, mais on est dans une logique qui n'est plus celle-ci, Georges Fenech. On est dans une logique de la multiplication des droits individuels à l'infini, une logique un peu calquée sur les États-Unis. Et effectivement, l'Europe de l'Est n'est pas dans cette mouvance-là. Et c'est donc deux visions de l'Europe qui s'opposent. Et je ne suis pas sûr qu'au sein même des sociétés occidentales, tout le monde partage cette vision. De liberté individuelle.
C'est ce que vous disiez, Philippe Doucet, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être revenir à une Europe plus réduite.
En tout cas, moi je pense que. Enfin, je ne suis pas sûr, parce que pour le coup, on ne va pas reprocher aux Polonais, quand vous sortez de 70 ans de joug soviétique, et par ailleurs, qu'on fait suite, c'est un pays qui a une histoire terrible. Donc nous, on a vécu notre nation depuis longtemps. On est une des plus vieilles nations en Europe avec, la Grande-Bretagne,
et
nos amis britanniques.
Et qui a été un des pays les plus forts de l'Europe avant 1660.
Mais depuis 1660, les Polonais...
Il y a eu quelques petits partages.
Les Polonais, ils ont pris cher. Ils ont pris très cher. Et donc, quand ils se retrouvent pour la première fois, parce que paradoxalement, 1989, ça peut paraître loin, mais en fait, c'est très près. Hein, la chute du mur de Berlin, c'est pas si vieux que ça. Et donc, eux, ils ont envie de s'exprimer comme nation, comme les Hongrois, qui eux aussi ont beaucoup souffert, y compris dans les partages après la Première Guerre mondiale, les Tchèques. Enfin, on voit bien que la question nationale, le fait de vivre sa nation dans toute sa puissance, dans toute sa force, c'est un élément qui est fort. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que on était obligé de faire l'élargissement, mais aujourd'hui, si on veut faire l'approfondissement, on ne peut pas le faire en même temps que ces nations qui nous ont rejoints récemment, qui sont sur un chemin européen récemment. Mais bon, donc ça, je partage ça. Et je pense qu'effectivement, si on veut avancer, il faut avancer à 6, à 7, à 8, à 9, à ceux, aux pays fondateurs de l'Europe occidentale. Par contre, on s'en sergerait, répondre à Georges Fenech, parce que, OK, il manque plein de choses à l'Europe, mais je pense franchement, Georges, que tu ne pourras plus avancer sur l'état de droit si le reste de la dimension n'avance pas. Parce que derrière, tu ne peux pas expliquer à un ouvrier dont la boîte a été fermée, délocalisée en Pologne ou en République tchèque, que demain, la norme européenne, c'est super, parce que lui, il a vu qu'il a perdu son boulot, qu'il est en galère pour payer les traites de sa maison, et que dans l'endroit où il est, il ne va pas retrouver de boulot. Et donc, à un moment donné, il y a les gagnants de l'Europe, c'est vrai. Bien, on peut aller voilà, avec l'euro, tu vas en vacances en Croatie, t'as l'euro et tout ça. Et puis il y a les perdants de l'Europe. Et en France, des perdants de l'Europe, il y en a aussi beaucoup. Et politiquement, si on ne veut pas l'entendre, si on ne veut pas le comprendre et l'intégrer, on n'arrivera plus à avancer, et y compris sur ces mains, il y aura même des éléments de recul. Parce que le fait qu'on n'ait pas de politique migratoire en Europe, eh ben, qu'on ne porte pas ça, on pourrait l'avoir en France, mais elle n'est pas faite, la réalité, parce qu'on a bien mis des policiers. Hein. Quand il y avait les migrants qui passaient par l'Italie, on a mis des policiers dans la montagne. Hein. Bon. Eh bien, on peut avancer dessus. Mais on voit bien que si on veut faire un saut politique, si on veut faire un saut sur l'Europe, il faut faire un saut politique.
Ça, c'est assez amusant parce que je demandais à Prisca Thévenot, il y a à peu près 40 minutes, par où on commence, et on ne sait toujours pas par où on commence justement pour réformer les choses.
C'est-à-dire
par où on commence. Là, tous les quatre, vous faites un constat de toutes les choses qui ne vont pas dans l'Europe.
Oui,
mais pour l'instant, par où on commence pour justement réparer.
Mais je pense qu'il y a plusieurs chantiers à mener. Mais déjà, il faut s'entendre sur le fait qu'il nous faut plus d'Europe, mieux d'Europe, mais absolument pas un repli national sur plein de volets.
Déjà
le sujet. Non, mais le sujet de l'immigration, effectivement, l'échelle pour le traité, c'est l'échelle de l'Union européenne. Nous ne sommes pas une île. Donc nous avons effectivement des frontières avec un certain nombre de pays. Il va falloir aussi l'accepter, ça je pense. Sur le sujet de la défense, c'était un des sujets à l'agenda de la rentrée de septembre de cette année. Le président de la République a réuni l'ensemble des parlementaires de Renew, donc le consortium de députés européens de la majorité présidentielle, pour travailler et pour plancher sur le sujet de la défense européenne en vue de la présidence que nous allons avoir dans quelques semaines. Donc oui, en fait, il ne s'agit peut-être pas de choisir un sujet, mais bien de dire que s'il y a une priorité, c'est de renforcer l'Europe sur l'ensemble de ses compétences, parce qu'effectivement, sinon, nous allons vraiment avoir un blocage et nous allons, de fait, avoir un problème assez important de renoncement sur le projet européen.
Merci à vous quatre, Prisca Thévenot, Philippe Doucet, Georges Fenech, Alexandre Devecchio. Fin de ce premier sujet. On se retrouve juste après le journal de 19h avec un coup de projecteur sur la propreté à Paris. Oui, on parle de Paris, mais ça peut arriver dans toutes les villes. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps à Marseille. Les Parisiens disent Burke à 84% et même très Burke à 39%, que fait Anne Hidalgo. Et puis le dernier James Bond, vraiment le plus mauvais de toute la série, ou alors faut-il le regarder autrement? Le dernier Bond est-il victime aussi du wokisme? On posera la question après le journal de 19h.
D'Italie, 3-2, mais il faudra battre l'équipe d'Espagne. Elle est redoutable, cette formation. C'est une jeune équipe qui adore garder le ballon, demi-finaliste du dernier Euro. Formation que connaît très bien Antoine Griezmann, qui évolue, vous le savez, en Espagne depuis l'âge de 14 ans. Le numéro 7 français va fêter ce soir sa 100e sélection face à son pays d'accueil, si je puis dire. Un moment riche en émotions.
Le fait que ce soit la 100e et une finale, voilà, ça sera spécial, très fier et très heureux. Mais voilà, après j'espère que ça va bien se terminer avec une coupe et une fête après le match.
Voilà, Antoine Griezmann qui était interrogé après la victoire de l'équipe de France face à la Belgique, bien évidemment. Alors ce France-Espagne va nous rappeler des souvenirs de l'Euro 84, notamment, et cette victoire de la bande à Michel Platini au Parc des Princes. On espère la même victoire, on espère un succès évidemment ce soir pour cette équipe de France qui devrait évoluer avec trois défenseurs, Koundé, Varane, Kimpembe, Théo Hernandez et Pavard sur les côtés, Pogba et Tchouaméni à la place de Rabiot qui est absent en raison donc d'un test positif au Covid, et puis le trio Griezmann, Mbappé et Benzema devant.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Nous aussi, on espère une victoire de la France. Espagne-France, c'est à 20h45. À suivre donc dans Europe 1 Sport. Et avant cette rencontre, l'Italie s'est adjugée cet après-midi la troisième place après avoir battu la Belgique en petite finale à 2-1. Lionel Rousseau nous parlera en fin de journal du programme de la soirée.
On en parlait à l'instant dans les débats d'Europe Soir. Les Polonais dans la rue pour dire leur attachement à l'Union Européenne.
Oui, ils manifestent partout dans le pays après la décision vendredi de la Cour constitutionnelle de contester la primauté du droit européen sur les lois polonaises. Une mobilisation à l'appel de Donald Tusk, l'ancien président du Conseil européen, et ils sont nombreux au CNTA.
Oui, de Varsovie à Cracovie, en passant par Katowice dans le sud du pays, l'hymne européen, l'ode à la joie de Beethoven retentit, des milliers de Polonais agitent des drapeaux et clament leur slogan « Nous restons dans l'Union européenne ». Cette mobilisation fait suite à une décision choc de la Cour constitutionnelle polonaise vendredi. La plus haute juridiction du pays confirme que le droit polonais prime sur le droit européen. Un coup de tonnerre diplomatique, cela pourrait marquer la première étape d'une sortie définitive de la Pologne de l'Union européenne, un polexit. Et c'est un horizon que Beata Gepert, traductrice et activiste polonaise, ne veut surtout pas envisager.
On veut rester dans l'Europe, on veut avancer vers l'Europe, on peut espérer avoir des garanties en raison de l'existence de la Cour de justice européenne qui peut prononcer des jugements contre la Pologne au moment où la Pologne transgresse l'état de droit. C'est une sorte de garantie de la démocratie et des droits de l'homme.
Beata manifeste en ce moment même dans les rues de Varsovie. Elle le répète, elle manifestera autant de fois que nécessaire pour empêcher que son pays ne quitte l'Union européenne.
Océane Théard, et cette décision de Varsovie a provoqué une salve de réactions, notamment des candidats à la présidentielle en France, comme celle d'Arnaud Montebourg, l'ancien ministre du redressement productif, était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin. Lui, qui se dit souverainiste, estime normal que les pays privilégient leurs lois avant les décisions européennes.
Je crois que l'affirmation qu'une constitution est supérieure et doit être supérieure aux décisions qui sont prises par l'Union européenne, pour moi, c'est une évidence, presque une lapalissade. Je n'ai aucune sympathie pour le gouvernement polonais. Néanmoins, le fait qu'un État membre aujourd'hui veuille réaffirmer la suprématie de sa loi nationale me paraît être le chemin que la France doit emprunter.
Arnaud Montebourg sur Europe 1 ce matin.
Dans l'actualité également, ce sondage pas très reluisant pour Paris qui affirme que la capitale est sale.
Oui, c'est du moins ce que pensent plus de 8 Parisiens sur 10 selon un sondage IFOP publié aujourd'hui. Et pour protester contre l'état de saleté de la ville et certaines décisions de la mairie de Paris, le collectif Saccage Paris a organisé cet après-midi une manifestation devant l'hôtel de ville. Zoé Pallier.
Si nous sommes là un dimanche, avec des priorités tous différentes, c'est parce que seul un rapport de force solide et durable obligera Anne Hidalgo à nous écouter enfin.
Ils sont venus exprimer leur colère juste sous les fenêtres des élus et leur liste de reproches est très longue. Des salles de shoot aux 30 km/h avec un point commun à tous les manifestants. Ils trouvent trop sales les rues parisiennes.
Je gère un immeuble, nous payons pratiquement 9000 euros par an de taxes de balayage et c'est nous, riverains, qui sommes obligés le matin d'enlever les détritus parce que c'est jamais lavé. Il faudrait que le service propreté soit décentralisé dans les mairies d'arrondissement de façon que chaque maire puisse avoir l'autorité de l'organisation. Là, il y a du laisser aller partout.
Les manifestants accusent la mairie de laxisme, parlent d'anarchie dans l'espace public. Tous racontent leur dernier accrochage avec un vélo ou une trottinette.
Moi, en tant que médecin, je reçois tous les jours des blessés d'accidents de la voie publique suite aux installations qui sont tout à fait illogiques.
Anne Hidalgo est copieusement huée, son visage collé sur les pancartes. Malgré cela, les partisans de Saccage Paris contestent toute récupération politique.
Zoé Pallier.
Vous restez avec nous, 19h06 sur Europe, le monde du théâtre bouleversé après des milliers de témoignages dénonçant des viols, des agressions sexuelles dans le milieu justement du théâtre. On revient sur ce mouvement MeToo Théâtre avec le hashtag devant dans un instant.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Sophie Tussaud, c'est un séisme dans le milieu du théâtre. Plus de 5000 témoignages en seulement 3 jours ont révélé des viols ou des agressions sexuelles et sexistes dans ce milieu culturel.
Des témoignages souvent très poignants, comme celui de Sonia qui rêvait d'être comédienne. Elle avait seulement 11 ans quand elle a commencé le théâtre.
Une main sur notre dos, l'autre sur notre ventre. Il nous touchait les cuisses. Enfin, vraiment, c'était... très furtif, mais c'était vraiment malsain. On avait quoi, 13-14 ans, c'était vraiment mais horrible. Donc j'ai clairement abandonné ce rêve de devenir actrice parce que bah, disons que je voulais pas y laisser mon corps.
Et le point de départ de ces témoignages, c'est la youtubeuse Marie Coquille-Chambelle qui a affirmé avoir été victime de la part d'un membre de la Comédie-Française lors du premier confinement.
Oui, à la suite de ces révélations, un collectif d'artistes hashtag MeToo Théâtre a été créé. Objectif, briser le silence. Marie Coquille-Chambelle, victime d'un viol, donc était l'invitée d'Europe 1 à la mi-journée.
Le but de notre compte Instagram que nous avons créé, c'est de mettre en lumière donc ces témoignages. Ces témoignages, on les recueille. On va montrer aux victimes qu'elles sont légitimes de parler. On va les rediriger aussi vers des numéros de personnes qui sont habilitées dans le milieu du spectacle vivant à recueillir ces paroles pour des conseils juridiques et des conseils plutôt d'ordre psychologique, mais sans mettre en difficulté les victimes, c'est-à-dire qu'on ne donnera aucun nom, ni des personnes accusées, ni des victimes. Et si le ministère de la Culture veut faire des signalements, nous donnerons les noms aux autorités compétentes, mais c'est tout.
Marie Coquille-Chambelle avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Cinq jours après le rapport Sauvé sur les actes de pédocriminalité au sein de la communauté catholique, les fidèles étaient de retour à l'église ce dimanche.
Un retour très particulier, notamment à Luçon, en Vendée, le point de départ des révélations. Et sur place, après toute cette affaire, c'est la stupéfaction. Charles Guyard.
Oui, devant la cathédrale de Luçon, dans laquelle une plaque a été spécialement posée en mars dernier au sujet des actes de pédocriminalité dans l'église, le rapport Sauvé a une résonance évidemment toute particulière. Michel et Bella d'ailleurs n'en reviennent toujours pas.
Comment voulez-vous être croyante après des trucs comme ça ?
On garde la foi, mais il y a quelque chose qui est cassé, quoi.
Je serai maman aujourd'hui, c'est vrai que
j'enverrai peut-être pas mes enfants en colonie de vacances, hein, avec les curés, des prêtres. Ouais.
Des curés, des prêtres, c'était là les seules références. Des enfants envoyés dès l'âge de 10-11 ans au petit séminaire de Chavagne-en-Payé, toujours en Vendée, non loin de Montaigu. Charles a toujours vécu ici, juste à côté du pensionnat, sans savoir ce qui se passait derrière les hauts murs de l'institution.
Ben, on n'a rien vu, hein. Ben, c'est-à-dire qu'ils étaient en communauté au séminaire, donc ça s'est fait comme ça, sans qu'on s'en rende compte.
À l'époque, Sœur Marie était au couvent, à quelques rues du séminaire qui abrite aujourd'hui un collège. Elle est aujourd'hui écœurée.
C'est une honte. Ah, il faut que ça se sache. Oui, ça a été des criminels. Et qu'on est criminels quand on touche un enfant.
Et pour le seul département de la Vendée, plus de 70 victimes ont été identifiées à ce jour pour 45 agresseurs recensés.
Charles Guyard à Luçon pour Europe 1.
C'est une décision qui chamboulera sans doute de votre façon de faire les courses. À compter du 1er janvier, les emballages plastiques seront interdits pour la plupart des fruits et des légumes.
Oui, le décret sera officiellement publié mardi. Actuellement, il y a entre 1 et 2 milliards d'emballages plastiques par an. Alors forcément, cette mesure a du bon pour la planète et marquera le retour du vrac.
C'est une très bonne nouvelle, j'espère que ça va se passer très vite. Il faut juste s'organiser, juste y penser. Je pense qu'on le faisait il y a 30 ou 40 ans. Voilà, on a oublié de le faire, on va le refaire. C'est pas bien grave. Excellente nouvelle.
Sans emballage, ça abîme quand même. Quand on prend des courgettes, par exemple, bio avec juste un cerclage, bah, il faut faire attention.
Là, c'est une très bonne chose, une bonne avancée, en effet, de pouvoir les emballer avec un petit anneau dans un autre matériau et de pouvoir choisir les fruits et légumes comme on le souhaite et contribuer à diminuer les déchets.
Moi, les fruits et légumes sous plastique, ça ne m'a jamais vraiment inspiré. Souvent, ils sont de moins bonne qualité. Donc, du coup, moi, je préfère choisir mes fruits et légumes à l'unité. Donc, c'est très bien. Et en plus, c'est écolo.
Voilà, des consommateurs satisfaits. Témoignage recueilli par Harold de Caron pour Europe 1. Notez que l'interdiction totale se fera en plusieurs étapes.
On passe au sport. Et on va commencer par vous, mon cher Lionel Rousseau. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Puisqu'il y a du foot ce soir.
Absolument, la finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne. Le coup d'envoi est à 20h45 et à suivre en intégralité sur Europe 1. Et avant, nous parlerons des frères Hernandez. Souvenez-vous, pour la première fois depuis 1976, deux frères se sont retrouvés en équipe de France. C'était contre la Belgique, les frères Hernandez. Ce soir, il n'y a que Théo qui est titulaire, mais Lucas va peut-être entrer. Ce sera donc encore l'occasion de les retrouver tous les deux sur le terrain. Je vous disais que ce n'était pas arrivé depuis 1976, depuis les frères Révelli, des gloires de la Saint-Étienne, Hervé et Patrick, qui avaient joué notamment avec les Bleus. C'était au Parc des Princes contre la Roumanie à l'époque, ensemble. Ils seront nos invités ce soir. Hervé et Patrick Révelli, des légendes, des gloires du football, qui nous diront si c'est un atout ou un inconvénient de jouer avec le frangin.
Oui, parce que Patrick Hernandez, c'est autre chose. 1979, c'est Bartoli
Mutombiola. Oui, mais nous sommes nés pour vivre et pour écouter le match ce soir.
Vous avez raison. Merci Lionel Rosso. À tout à l'heure, 20h dans Europe 1 Sport. Cette petite phrase de Neymar maintenant, ma chère Sophie.
Oui, le Brésilien estime que la Coupe du Monde 2022 au Qatar sera probablement sa dernière. Il affirme dans une interview qu'il ne sait pas s'il pourra supporter encore plus de football. Notez que Neymar est âgé de 29 ans.
En Formule 1, Valtteri Bottas remporte le Grand Prix de Turquie sur Mercedes.
Victoire devant Max Verstappen qui reprend la tête du championnat à Lewis Hamilton. Et puis en cyclisme, c'est le Français Arnaud Démare qui remporte le Paris-Tours. Il a devancé au sprint son compatriote Franck Bonamour.
Merci Sophie Tussaud, on termine par le ciel.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Valérie Darmon, la semaine s'annonce contrastée côté ciel et côté température.
Absolument, avec un ciel très nuageux dans le nord et dans l'est et du ciel bleu ailleurs dès ce lundi. Un contraste marqué aussi du côté des thermomètres entre 0 à Épinal et 13 à Dunkerque pour les minimales. Mardi, pas de changement avec le maintien d'un ciel très nuageux des côtes de la Manche aux frontières de l'est avec un risque d'averse des Hauts-de-France au nord des Alpes. Dans l'ouest et au sud, le beau temps qui se poursuit. De mercredi à vendredi, la France qui est située entre l'anticyclone sur le proche Atlantique et des perturbations qui plongent du nord de l'Europe vers le bassin méditerranéen. En conséquence, les régions de l'Est et du Nord conservent un ciel très nuageux, avec un risque d'averse près des frontières, alors que les régions atlantiques et méditerranéennes profitent toujours du soleil, Mistral et Tramontane qui soufflent aussi assez fort dans leurs domaines respectifs. Côté température, donc le matin, on attend en moyenne 3 à 9 degrés en plaine avec un risque de gelée sur les régions centres. L'après-midi, 10 à 15 dans le nord et dans l'est en milieu de semaine à cause des nuages, contre 20 à 22 au sud de la Garonne et une vingtaine de degrés près de la Méditerranée. On se situe 2 à 4 degrés sous les moyennes de saison. Quasi partout, sauf en Aquitaine.
Merci Valérie Darmon. Retour des débats d'Europe Soir. Dans un instant, on parlera de la propreté à Paris. On se demande ce que fait Anne Hidalgo. Enfin, c'est pas moi, c'est les Parisiens qui se demandent. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec les débatteurs du soir. Georges Fenech, mon confrère du Figaro, Alexandre Devecchio, Philippe Doucet, membre du bureau national du PS et la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot. Depuis le début de l'année, le hashtag Saccage Paris rencontre un franc succès sur Twitter. 2 millions de publications. Les riverains, les touristes postent des photos de la saleté à Paris, des ordures sur la voie publique, du mobilier urbain abîmé. Selon une étude publiée de l'IFOP, 84% des Parisiens considèrent que la ville est sale, 39% très sale. Quand on pose la question de savoir si c'est Anne Hidalgo la coupable, 4 Parisiens sur 5 disent oui. Quant à Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien voilà ce qu'elle dit, elle était sur France 3 aujourd'hui.
Vous savez, j'ai vécu 3 ans de bashing permanent, hein, vous en souvenez sûrement. Et donc, j'ai connu ça, donc je sors forte de cela. Bon. Et bien sûr qu'il faut régler les vrais sujets des Parisiens. Je suis très attachée à ma ville et j'ai envie qu'on progresse. La question, par exemple, des déchets est un sujet national. Il faut qu'on réduise les déchets à la source. Et puis, c'est aussi un sujet national par les incivilités. Bon. Il faut que l'on redonne par l'école, notamment, le goût du respect des règles communes.
Voilà, c'est pas sa faute, c'est la faute est nationale. Prisca Thévenot, je vous ai vu beaucoup sourire pendant le sonore d'Anne Hidalgo qu'on vient de passer.
Je la trouve formidable. Je la trouve formidable parce qu'elle rentre dans un florilège d'indécence et de propos abjects. Écoutez, quand on rentre dans un système de victimisation, non mais pour être très clair, quand elle rentre au début de sa prise de parole, là, elle rentre dans un système de victimisation, bashing, etc. Je rappelle qu'elle est élue, elle a demandé à être élue, personne ne l'a forcée, donc elle prend ses responsabilités. Les Parisiens ne sont pas contents. Voilà, les Parisiens ne sont pas contents. Vous disiez justement, 4 Parisiens sur 5 ne sont pas contents, notamment sur le sujet de la propreté. Il ne faut pas qu'elle considère que c'est pour sa propre personne, mais c'est la gestion de la ville qui, de surcroît, est la première ville de France, c'est la capitale de France. Ensuite, quand elle dit, oui, pour les déchets, il faut éduquer les Parisiens, c'est toujours la même histoire. C'est les Parisiens qui sont sales, qui ne savent pas se comporter. Moi, je vais vous donner un exemple très concret, et là, je vais vous dire très clairement, Je ne vais pas vous parler d'un maire qui est de la majorité présidentielle, parce que il n'y a pas, ça n'aura échappé à personne, il n'y a pas de maire de la majorité présidentielle, mais le maire du 17e qui s'appelle Geoffroy Boulard, qui est un maire LR, et qui a justement expliqué qu'il y a des incohérences assez dingues sur la façon dont la propreté est gérée à Paris, qui n'est pas du ressort des maires d'arrondissement, parce qu'Anne Hidalgo le refuse. Par exemple, les personnes qui nettoient les rues passent avant que le ramassage des poubelles ait lieu. C'est complètement absurde, on ne fait pas ça chez soi. Enfin, je veux dire, il y a des incohérences assez dingues et elle ne veut pas s'y mettre. Ensuite, moi, je vais aussi vous dire...
C'est-à-dire que la poubelle reste toute la journée, c'est ça ?
Non, mais ça veut dire qu'en fait, on sait très bien que quand les éboueurs passent pour ramasser les poubelles, ça peut tomber. Oui. Donc, c'est plus logique de faire passer ensuite le nettoyage des rues après le passage des éboueurs et pas avant. Mmh. Voilà, c'est des choses aussi simples et bêtes que ça, qui ne sont pas mises en place. Et quand on lui montre que ça ne fonctionne pas, elle refuse d'écouter. Ensuite, moi, il y a aussi un autre sujet dont on parle très peu et qui sont extrêmement importants. On parle très peu de ce qui s'est passé dans la rue de Trévis. Il y a eu une énorme explosion où il y a eu énormément...
Dans le 9e arrondissement, voilà, près des Folies-Berges.
Énormément de victimes. Et notamment, moi, je suis en lien avec une des victimes qui s'appelle Inès, qui a subi sa 40e intervention chirurgicale ce mois-ci. Ils attendent ces victimes une indemnisation qui est débloquée par l'État, qui a été l'objet d'une question au gouvernement. Anne Hidalgo refuse encore de signer l'accord cadre pour ses victimes.
Pourquoi ?
Ben voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle est interpellée sans cesse. Je veux dire qu'à un moment, je veux bien le côté victimisation, etc. Mais je pense qu'elle doit rentrer en responsabilité, d'autant plus qu'elle est aujourd'hui en train de dire qu'elle a très bien géré Paris et qu'elle court pour les présidentielles. Je pense qu'il s'agit d'abord d'écouter les gens qui l'ont élu, les Parisiens, même si ce n'est pas un suffrage direct, mais qui l'ont élu, qu'elle s'occupe de Paris en priorité. Il y a tellement de choses à dire. Je pourrais parler pendant 3 heures sur la mobilité, par exemple, et je vais finir sur ça. Elle veut rénover Paris. Elle fait des travaux partout. Est-ce qu'elle s'est posée une seule fois la question de la mobilité à Paris ? Je parle de la mobilité des gens qui sont porteurs de handicap. Ça ne l'intéresse pas. Donc, je veux dire, un moment... C'est pour ça que...
Elle enlève les panneaux de signalisation en attendant.
Voilà, non mais c'est tout. C'est pour ça que quand je dis que c'est un florilège d'indécence et d'abject, c'est ça. Elle oublie le sujet premier, qui est normalement, je pense, une valeur de gauche, qui est le côté humain. Est-ce qu'elle considère enfin, une bonne fois pour toutes, les Parisiens ?
La question est posée, Prisca Thévenot. Qui prend la suite ? Alors, Alexandre Devecchio ?
Je ne vais rien rajouter sur Anne Hidalgo. Il est évident que la propreté, c'est de ses compétences. C'est ce qu'on demande... Le minimum qu'on demande à un maire, donc reporter la balle sur l'État, ça me paraît assez indigne. Mais ça, tout ça montre, je crois, deux difficultés que va avoir Anne Hidalgo, puisqu'elle veut être également candidate à la présidentielle. La première, c'est son... Oui, elle l'est. Lapsus.
elle veut être
présidente. C'est d'abord son bilan. Je pense que ça va être le sparadrap du capitaine Haddock, son bilan parisien, et surtout peut-être le décalage finalement entre sa politique à Paris, Paris, ville la plus riche de France, politique sociétale faite pour les bobos, ce que doit être le Parti socialiste.
Et puis le réceptacle d'un tourisme international, quand même. Il y a ça aussi.
Ce qui est historiquement le Parti socialiste, c'est-à-dire ce qui est censé être, ça fait bien longtemps qu'il ne l'est plus, mais là, c'est caricatural avec une candidate pareille, le grand parti des classes populaires. Et là, on voit bien que ça va être très, très difficile de leur parler et qu'elle va être prise sans cesse dans ses contradictions, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'elle voulait baisser les taxes sur le carburant pour quelqu'un qui a attaqué dans sa ville autant la voiture. Alors moi, je ne suis pas contre baisser les taxes sur le carburant, mais il faudrait savoir à un moment donné. Donc ça va broyer, je dirais, sa crédibilité sur tous les autres sujets. Et donc, choisir une candidate maire de Paris à l'heure où on a en plus un clivage entre les grandes métropoles et ce qu'on appelle la France périphérique, le reste du pays, ça me paraissait peut-être pas le plus judicieux pour le Parti socialiste.
Vous parlez des classes populaires, justement, 90% des habitants du nord-est de la ville, donc 18e, 19e, 9e et 10e, se plaignent de la saleté. 96% des personnes interrogées sur la saleté appartiennent aux classes modestes, des personnes gagnant entre 893 et 1318 euros par mois. Toutes ces personnes-là sont mécontentes. Qu'en pense l'élu local, Philippe Doucet ?
Il y a deux choses. Trois choses.
Et du Parti Socialiste,
accessoirement. Oui, accessoirement.
Vous avez la
lourde tâche.
Ouais, vous êtes entre les deux chaises, là.
Elle a vécu le bashing avant sa municipale de 2001.
pardon.
De 2020, de 2020, pardon.
Il y a du vécu en studio. Alors,
donc, non, mais elle l'a vécu. Je veux dire, bon, le FIAO a fait une campagne interminable
une photo
sur le sujet.
Du sourire de Prisca.
Donc, non, mais c'est vrai. Je veux dire, faut reconnaître ce truc-là.
Rire,
la droite a essayé.
Mais
et
la sociologie de la France n'est pas celle de Paris.
Donc, non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, la droite a essayé de la déboulonner. Ça n'a pas marché. Et ils ont donc ils ont fait une campagne avec la puissance que la droite peut avoir à travers un certain nombre de médias. Et En Marche aussi. Mmh. Voilà. Bon. En Marche, ils n'ont pas réussi. Ils avaient des candidats un peu particuliers, on va dire. Donc, bon.
Parlons d'Anne Hidalgo, donc, peut-être. Ne changeons
pas de sujet. Donc, bon, ça t'arrange bien sur ce coup-là. Bon, mais on est charitable, c'est dimanche soir.
Benjamin Griveaux et Agnès Buzyn.
Voilà, bon. Deuxième aspect des choses, la propreté des villes, en général, c'est des sujets toujours très compliqués, parce que derrière... moi, je l'ai vu quand j'étais maire d'Argenteuil. Le rapport à la... Et on a deux sujets. Le rapport à l'espace public des uns des autres fait qu'on a finalement la logique du respect de l'espace public. C'est une catégorie qui a disparu, une mentalité qui est beaucoup en voie de démission. Et deuxièmement, les aspects logistiques de l'organisation de ce type de sujet comme celui que tu évoquais, c'est pas des minces affaires parce que là où avant, comme me disaient les chauffeurs de benne, avant on passait, on mettait tout dedans, dans la benne. Là, aujourd'hui, il y a le tri, les poubelles à tri, il y a les conteneurs
retirés de ça. Dans d'autres villes, Philippe Doux, ça marche très bien dans d'autres villes, Philippe Doux.
Oui, dans d'autres villes.
Argenteuil, comment ça marche?
Argenteuil, c'est compliqué. Ça a été compliqué, c'est compliqué. Il y a des quartiers, c'est compliqué.
Vous avez 84% de mécontents
Je ne sais pas. Par exemple, pour vous donner des exemples très concrets, on avait mis des colonnes enterrées et les équipes mettent des colonnes enterrées. Bon. Et au final, tout le monde me dit c'est super mieux. Et on constate en fait que c'est pire.
C'est quoi les colonnes enterrées?
Les colonnes enterrées, c'est que vous ne sortez plus des poubelles, mais en fait, vous faites un trou et vous mettez des colonnes.
Prenons des grandes villes, Strasbourg, donc, Bordeaux, ça m'a l'air tout à fait propre.
Et on sort ce truc-là. Et au final, on constate que c'est les enfants qui descendent des sacs dans les certains nombres de quartiers qui se descendent. Et donc, on avait des problèmes pour les poubelles pour mettre les colonnes enterrées. Donc, on a changé le type de colonne enterrée. Donc, si vous voulez, il y a quand même des aspects très pratiques.
Je ne savais pas que sur votre carte de visite, il y avait également avocat d'Anne Hidalgo.
Non, mais...
nous allons poursuivre les discussions juste après ça. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Georges Fenech, Alexandre Devecchio, Philippe Doucet et Prisca Thévenot pour parler de la propreté à Paris. Justement, on rigolait un peu parce qu'il y a 21% des Parisiens qui veulent éliminer les pigeons. Tiens, ça vous fait réagir, Alexandre Devecchio?
Non, encore une fois, contradiction des Parisiens. Bon, je pensais qu'ils étaient écolos, ils veulent tuer les pigeons. C'est pas ce qu'il y a de plus gênant à Paris, les pigeons.
Il y a des gens qui disent que c'est des rats avec des ailes.
Oui. Mais j'ai entendu aussi qu'il y avait certains Parisiens qui donnaient à manger aux rats, qui les trouvaient mignons.
Si le seul problème de Paris, c'était les pigeons, franchement, si le seul problème de Paris, c'est les pigeons, je veux bien. Mais on l'a dit juste avant, il y a bien d'autres sujets à traiter avant ça.
C'est vrai que, alors, juste avant la pause, nous étions avec l'avocat de Madame Hidalgo, en l'occurrence Philippe Doucet, qui en était aux colonnes enterrées.
Non, ce que j'ai expliqué, parce que pour tout dire aux téléspectateurs, ce qu'on dit tout, évidemment... L'ensemble des intervenants se moquaient de moi parce que j'expliquais comment les questions de propreté étaient, y compris techniquement, des fois compliquées. C'est-à-dire que des dispositifs, a priori, qu'on nous vend comme intelligents, ne fonctionnent pas toujours.
Mmh. Bon, voilà, et donc, comment on faisait avant, c'est ça le truc? Pourquoi ça s'est dégradé en quelques années?
Avant, on était moins sales. Non, mais Anne Hidalgo, elle dit ça, elle dit « les gens sont sales, j'y peux rien ». Donc, en gros, c'est ça qu'elle a dit.
Par exemple, qu'on voit dans Paris, que je peux voir dans Paris sur ce qu'on appelle les dépôts sauvages, c'est-à-dire que des gens déménagent, font des travaux, ils mettent tout sur le trottoir. Auparavant, ça fonctionnait pas obligatoirement comme ça.
On appelle les encombrants pour ça.
Oui, mais d'accord, il faut appeler les encombrants, il y a des jours et tout. Oui, mais il faut respecter le jour. Donc, par exemple, sur Argenteuil, il a fallu qu'on mène une bataille intense sur les encombrants. Vous voyez, c'est une galère totale.
Non, mais
parce que, y compris, pour des trucs tout bêtes, vous voyez, sur les déchetteries, les dépôts, quand vous déposez des dépôts encombrants, c'est payant. Et donc, il y avait toute une série d'artisans qui, pour ne pas payer la déchetterie, déposer sur notre territoire.
On tourne en rond. Voilà.
C'est quand même triste de voir que la plus belle capitale du monde soit la capitale la plus sale du monde, quoi. Parce que quand on va à Milan, quand on va, je ne sais pas moi, à Rome, quand on va à Budapest, quand on va et d'autres pays, même dans des pays de l'Est, on est frappé par la propreté. Vraiment. Et quand on vient à Paris, les étrangers qui viennent à Paris le disent aussi, il y a un problème de propreté. Alors, sans doute qu'il y a aussi une question un peu, entre guillemets, culturelle. Il y a beaucoup d'incivilité, il y a moins de discipline, ça c'est sûr. En ce sens, Anne Hidalgo, quand elle parle d'éducation, elle n'a pas tort non plus. Mais quand même, il faudrait peut-être augmenter les équipes de propreté, augmenter le nombre de poubelles. Il y en a, j'ai l'impression, des poubelles, vous savez, les corbeilles, quoi, avec le plastique. On en voit de moins en moins. Et puis sanctionner. Il faut aussi. Il y a une police municipale que je sache maintenant à Paris. Hein, donc
non,
faut...
elle n'a pas mise en place.
Pour les elle est toujours pas en place.
Mais non, toujours pas.
Oui, mais elle est sur
alors
le papier.
Alors que sur la loi le permet, elle le veut toujours pas.
Non, mais c'est pas possible.
Les Parisiens veulent 61% veulent faire payer des amendes aux gens qui salissent.
Mais il faut.
Mais
bien sûr.
Je croyais que ça existait déjà. Oui. 50% non,
la législation est fragile sur le sujet. Ouais,
non, vous jetez un mégot de cigarette, c'est 135 euros, je crois.
À Singapour.
Ah bah à Singapour, c'est même c'est pas 135 euros, ça doit être beaucoup plus. 50% souhaitent renforcer les effectifs et les moyens des services des voiries municipales et 22% veulent multiplier les poubelles dans les rues.
Voilà. Ben oui.
Et 21% veulent éliminer les pigeons.
Non, mais on peut avoir le sujet sur l'éducation, etc. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas oublier quelque chose. Disons les choses franchement, Anne Hidalgo ne sait pas gérer la propreté. Et moi, je pars du principe où si elle ne sait pas le faire, qu'elle le dise franchement et qu'elle accepte de dire oui à la majorité des maires d'arrondissement qui, de tous bords confondus, lui demande, alors sauf de son bord bien sûr, lui demande de déléguer cette compétence aux mairies d'arrondissement. En plus, j'ai envie de dire, politiquement parlant, elle a tout intérêt à le faire. Parce que demain, on lui dira, mais Madame Hidalgo, votre ville est complètement sale. Elle dira, mais c'est pas de ma faute, c'est les maires d'arrondissement.
Mais elle le dit déjà.
Non, elle dit pas que c'est la faute des maires d'arrondissement. Elle dit que c'est la faute des Parisiens. C'est encore mieux. Donc, je pense que sur ce sujet-là, il faut arrêter de tourner en rond et vraiment revoir la façon dont la compétence de la propreté est gérée. Vous parliez également des poubelles.
Oui.
Les poubelles, vous avez vu comment... les poubelles, elle nous dit en permanence, elle a fait de très belles poubelles, bien designées, etc., avec des trucs en toiles qui se font manger directement par les rats, typiquement. Je veux dire, un moment, je pense qu'Anne Hidalgo, elle doit faire un truc, c'est sortir de sa mairie et descendre et marcher dans les rues de Paris. Et elle se rendra compte à quel point c'est extrêmement désagréable. Pas que pour les Parisiens d'ailleurs, pour une partie aussi des Franciliens. Paris n'appartient pas aux Parisiens. Et ça, il va falloir qu'elle l'entende une bonne fois pour toutes.
Ce chiffre de 84%, il est amusant. En tout cas, il est révélateur. Il est révélateur parce qu'en 1974, l'année de ma naissance, 84% justement des Parisiens considéraient que leur ville était sale. Donc on arrive au même point. Mais entre-temps, en 1991, après 14 ans de mandat de Jacques Chirac à la mairie de Paris, ce chiffre n'atteignait que 53%.
C'est ça, on voit bien qu'il y a une... On voit bien, il y a un sentiment en tout cas de dégradation. Et ajoutez à cela que Paris est un immense chantier. Vous avez vu, il y a des travaux, mais partout. On ne voit pas d'ailleurs les gens travailler, effectivement, mais il y a des travaux, des barrières partout. On a des bouchons, Porte de Champéret, Porte Dauphine. C'est, moi, j'emprunte ce chemin tous les jours, c'est très très compliqué.
Ah bah, c'est-à-dire ce côté-là, Dauphine, Terne et Maillot, on ne peut plus passer.
On ne peut plus passer. Ouais. En plus de ça, maintenant, la vitesse est limitée à 30 km/h.
Parce qu'il y a le tramway qui est...
Donc, ça devient invivable, véritablement. Quoi.
Monsieur Doucet ?
Non, Monsieur Doucet, il n'y a plus aucun argument ajouter. Pour
les
défendre.
Les poubelles enterrées.
Non, je ne suis pas effondré. La bête est coriace. Donc, j'aurais plutôt revenir sur ce qu'évoquait Monsieur Devecchio tout à l'heure sur... la ligne politique d'Anne Hidalgo. Moi, je suis convaincu que si elle veut construire un chemin pour la présidentielle, il faut qu'elle se réapproprie l'ensemble de ce que sont les fondamentaux de la social-démocratie. Voilà. Donc, elle a commencé sur France 3, là, sur la question des salaires. Je pense qu'il faut... la question, l'écologie, il y a un candidat écologiste qui est Yannick Jadot. L'espace existe entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un espace social-démocrate. Il y a une dimension écologiste, elle est incarnée par Jadot. Cette question de la social-démocratie, il faut qu'elle s'en saisisse. Et qu'elle dépasse son statut de maire de Paris pour aller à la rencontre des Français, mais à partir d'une ligne politique. Parce que finalement, il y a d'autres candidats qui ont... Valérie Pécresse, elle est présidente de la région de France, a fait pas des choses toujours formidables, moins qu'on puisse dire. Parce que j'aurais des choses à dire aussi sur le bilan de Valérie Pécresse. Xavier Bertrand, il est président de la région Hauts-de-France. Il fait peut-être certainement des choses bien, mais
bien
pas tout.
Il a été réélu, pourtant.
Mais, hein, réélu. On l'a un peu aidé.
Anne Hidalgo aussi a été réélu pour aller dans...
Donc, elle a été réélu. Et donc, le sujet là-dedans, que des grands élus soient candidats à l'élection présidentielle, moi, ça ne me choque pas.
Les grands élus peuvent bien sûr être candidats à l'élection présidentielle, mais il ne faut pas qu'ils soient en décalage entre ce qu'ils ont fait pendant leur mandat d'élu et ce qu'ils proposent par la suite. Et vous avez raison, sans doute, la seule chance du Parti Socialiste d'exister dans cette élection, c'est de revenir aux fondamentaux qu'il a délaissés. Et ça date, et l'évolution date d'avant Anne Hidalgo, bien sûr. Ouais. Et c'est d'ailleurs l'une des conséquences a été que Emmanuel Macron a décidé finalement d'en finir avec le Parti Socialiste. Mais je trouve ça intéressant et je pense que la droite a exactement le même problème qu'un certain nombre de candidats aujourd'hui, vous les avez cités, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, veulent revenir aux fondamentaux de ce qu'était le RPR. Simplement, ça ne fonctionne pas, puisque aux yeux de l'opinion, ils ne sont pas crédibles. Je pense qu'Anne Hidalgo va avoir le même problème.
Est-ce qu'il y a une fin de cycle, d'une certaine manière?
Moi, je crois qu'il y a une fin
de cycle. Parce que, d'une certaine manière, elle se fait effectivement évincer dans les sondages d'opinion par Yannick Jadot. Et aujourd'hui, on a tendance à dire que la gauche est verte et non plus rose. Et d'un autre côté, on a effectivement ces critiques sur Paris qui adviennent. Est-ce que ce n'est pas une fin de cycle?
Non, mais parce que là, derrière, je pense qu'elle a fait l'erreur, de mon point de vue, en début de campagne, d'avancer sur une dimension écologiste qu'elle porte aussi et que les socialistes ont aussi en tête.
Il y a le une dimension écologiste dans chaque programme aujourd'hui.
Oui, donc du coup, c'est pour ça que, du coup, comme je dis toujours, vaut mieux, si vous êtes écologiste, vous pensez que c'est la priorité absolue numéro un, bah vous avez Yannick Jadot, donc vous prenez Yannick Jadot, vous ne prenez pas Anne Hidalgo. Donc elle,
vaut mieux l'original,
vaut
que,
mieux
la
l'original que la copie. Ouais. Donc elle, son originalité, c'est cette logique, c'est cette histoire socialiste, cette histoire social-démocrate, ce que nous avons porté pendant que nous avons été au gouvernement depuis des années. Donc, et du coup, c'est ça cet enjeu-là. Donc elle, je pense qu'elle est en train de se recentrer sur les fondamentaux qui devraient être les siens depuis le début. Elle l'a commencé sur, notamment aujourd'hui, je crois, sur France 3. C'est une bonne marche. Il faut continuer dans cette démarche-là. Un parti qui n'a pas d'identité n'a pas d'électeur. Une candidate qui n'a pas d'identité n'a pas d'électeur. Donc il faut qu'elle affirme son identité.
Mais c'est quoi son identité?
C'est son identité. C'est une identité social-démocrate.
Vous êtes le seul membre du Parti Socialiste autour de cette table. C'est quoi l'identité d'Anne Hidalgo? Et c'est quoi l'identité du PS?
C'est la question sociale. Et moi, j'ai toujours préconisé, et là-dessus, je donne crédit à M. Devecchio, c'est que derrière, là-dessus, nous avons pendant un certain temps trop oublié les classes populaires dans notre parcours. Et je pense que l'erreur date de 2002. Quand Pierre Mauroy a dit dans le programme de Lionel Jospin, il n'y a pas le mot ouvrier, pourtant c'est pas un gros mot, c'est une erreur fondamentale. Et donc là-dessus, je pense que nous, il faut revenir à notre essence de ce pourquoi il y a eu des socialistes au 19e siècle, c'est le socialisme est né de la question sociale.
C'est possible en quelques semaines?
Oui, parce qu'on est... regardez à quelle vitesse ça bouge. Si on s'était vu fin août, est-ce qu'on tiendrait les mêmes éléments qu'aujourd'hui?
Oui, le problème, c'est également l'éclatement des candidatures entre Montebourg-Mélenchon, n'oubliez pas quand même, qui est devant, largement, qui fait deux fois plus qu'Anne Hidalgo. Comment vous pouvez prétendre faire une campagne?
Je dis que ça se construit, tout ça bouge.
Au deuxième tour, alors qu'il y a 4-5 candidats qui se présentent.
Jean Schneck, tu sais très bien, tu l'as vécu en 2017.
Il vous voit et vous.
Moi, je vous vois par respect pour les auditeurs.
Voilà, mais bon,
vous savez que le tu est excluant,
c'est vrai,
Philippe,
mais je n'ai. Alors, vous, Jean Schneck, non mais. Il y a, en 2017, Benoît Hamon a longtemps été au-dessus de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Les choses ont bougé. Mmh. On est au début de la campagne. Je veux dire, les élections, c'est en avril. Il va s'en passer des choses. Regardez les gens à Amboise, tout ce qui s'est passé. Non, mais je ne sais pas. Moi, en tout cas, je m'appelle pas Madame Irma, je ne dis pas dans l'avenir. Quoi, hein. Donc, je me dis que la politique, c'est un chemin. Et donc, il faut mettre des briques sur le chemin pour construire son chemin.
Que ce chemin soit
non,
propre.
Que voulais-tu dire? Tiens, je vais pas
tirer sur l'ambulance. Je pense que c'est pas que le fait de Madame Hidalgo d'ailleurs, mais je crois qu'effectivement il y a une fin de cycle des partis traditionnels, que ce soit LR ou les partis socialistes. Effectivement, parce qu'ils ont délaissé depuis trop longtemps leurs fondamentaux, leur électorat, on l'a dit, les classes populaires, et que la plupart des candidats ne sont donc plus crédibles pour incarner ce qu'ils prétendent incarner. Pour LR, c'est la question de l'immigration, de l'Europe. Quand on voit Michel Barnier, ça a été dit tout à l'heure, rogner toute sa vie politique en 15 jours, ça ne marche plus. Il y a une époque, peut-être, ça marchait, les gens qui retournaient sa veste, mais les électeurs ont été trop trahis pour adhérer à cela. Et là, ça va être compliqué quand même. Vous l'avez dit, les classes populaires, mais qu'est-ce que Madame Hidalgo, c'est le maire de Paris, une ville où il n'y a plus de classe populaire, où il n'y a plus de famille, parce que c'est impossible de se loger. J'y vais à grands traits, mais...
Il y a quand même des classes populaires dans l'Est parisien.
Elle n'est pas forcément élue, en plus, par les plus humbles à Paris. Donc, cette contradiction fondamentale va être quand même Difficile à gérer.
Vous raisonnez au mètre carré, en fait. C'est pour ça, au prix du mètre carré.
Oui, et je raisonnais, ouais,
mais
oui,
en réalité, il y a des classes populaires aussi, parce que dans certaines familles, il y a des appartements qui sont possédés depuis longtemps. Donc, dans ce cas-là, il y a des classes populaires.
Oui, il y a des quartiers avec du logement social.
Il y a des
arrondissements avec du logement social.
D'accord, mais ça fait quand même une ville où il n'y a pas beaucoup de mobilité sociale. Je ne jette pas la pierre à des gens qui ont la chance d'être des héritiers. Ils peuvent être classe populaire en étant des héritiers. Mais enfin, quand on est logé à Paris par ses parents, on est moins dans la détresse que d'autres. Donc voilà, je ne jette pas la pierre. Mais il se trouve qu'effectivement, il y a une logique de gentrification des centres-villes qui a été poussée à son paroxysme à Paris. Et ensuite, c'est difficile quand on a été porté par ça, par ce phénomène, de dire « je vais parler aux classes populaires ». C'est difficile de dire « on va baisser la taxe sur les carburants quand on mène une politique écolo anti-voiture qui empêche les banlieusards de venir à Paris ». Donc ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et ce à quoi on assiste, et on l'a déjà assisté avec Emmanuel Macron, c'est effectivement à un fin de cycle et à des électeurs qui partout cherchent des solutions alternatives et disent nous on fait plus avec les anciens partis politiques, il faut rompre avec cette logique.
Non mais moi je crois tout ça c'est des sujets qui font partie des préoccupations des Français, mais n'oubliez pas qu'une élection présidentielle c'est d'abord de tracer un dessin pour la France, c'est de montrer un chemin pour la France, c'est-à-dire élever le débat, c'est ça l'élection présidentielle. Après on discutera du social, du logement, mais d'abord où est-ce qu'on va, où est-ce que la France va. Souvenez-vous, Chirac, c'était la fracture sociale. Sarkozy, c'était le travail, travailler plus. Voilà, ça parlait aux Français. Et pourquoi Éric Zemmour, aujourd'hui, a le succès dans les sondages, en tout cas, que l'on connaît ? Parce qu'il a tracé un chemin en disant, aujourd'hui, la question, elle est civilisationnelle. Vous voyez ? Bon, on peut être contre, hein, évidemment, hein, mais en tout cas, il y a un dessin, il y a une sorte de destin, en quelque sorte, qui est proposé. Et aujourd'hui, à part ce discours-là, je n'entends pas.
Mais Éric Zemmour, je suis d'accord avec vous, il faut effectivement tracer un dessin, mais Éric Zemmour a la personnalité, le parcours qui cadre avec le dessin qu'il entend tracer.
Merci à Georges Fenech, à Alexandre Devecchio, Philippe Doucet et Prisca Tevdo qui restent jusqu'à 20h à mes côtés. On va parler cinéma dans un instant, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, 18h, 20h.
Pierre de Villeneuve.
Ce générique, vous le connaissez depuis 1962 et James Bond est de retour. On l'attendait parce qu'avec le Covid, on a dû patienter 18 mois avant d'avoir en salle No Time to Die, traduisez Mourir peut attendre, Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, extrait.
Le monde s'arme trop vite pour qu'on puisse suivre. Où est 007 ?
Aide-moi, mon frère. Il n'y a qu'à toi que je peux confier ça.
Le monde a évolué, commandant Bond.
Vous êtes 00.
Depuis 2 ans. Alors restez sur votre fil. Si vous me barrez la route, je vous mets une balle dans le genou.
Voilà donc un extrait de cette bande-annonce de ce film qu'on attendait beaucoup. C'est une habitude pour beaucoup de Français d'aller voir les James Bond dans les salles. Alexandre Devecchio, vous avez vu. Attention à ne rien spoilier, comme on dit. Spoiler, d'ailleurs.
Spoiler,
du verbe spoiler, enfin du substantif spoiler.
Et en français
et bah, de révéler des choses, voilà, qui s'est un peu divulgué.
Alors, pas de révélation.
On révélera pas le cœur de l'intrigue.
Mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est plus un Bond, c'est plus vraiment, que... c'est... il s'inscrit plus dans la série, c'est quand même très long.
C'est très long. Je pense que c'est assez que l'intrigue est assez complexe pour rien. On comprend pas tout, hein, pour être honnête. C'est long. Et après, il y a un deuxième problème qui là est plus, j'allais dire presque idéologique, c'est-à-dire vous
civilisationnel. J'irai pas
jusque là, mais on sent que le
on en parlait à l'instant.
Je peux pas révéler l'intrigue, mais on sent par certains choix scénaristiques. Toutes les polémiques qu'il y a eu avant le film ont pesé sur le film. On se souvient, il y a eu des polémiques sur est-ce que James Bond ne doit pas être aujourd'hui une femme, est-ce qu'il ne doit pas être noir, etc. Et finalement, est-ce que ce n'est pas un personnage obsolète pour la société d'aujourd'hui ?
Le monde évolue, comme on en Bond.
Oui, mais je pense que James Bond, c'est du cinéma, et les gens qui vont voir James Bond vont le voir aussi parce que c'est un personnage viril, pas forcément politiquement correct, parce que c'est l'incarnation de ce que les, la gauche qui veut, pas toute la gauche, mais la gauche woke qui voudrait tout déconstruire, l'incarnation de ce qu'elle appelle, de ce que cette gauche-là appelle le mâle blanc occidental. Mais voilà, moi je pense que James Bond doit rester un mâle blanc occidental et qu'il peut y avoir d'autres héros qui ont des profils différents. Mais quand on va voir James Bond, c'est pour qu'il soit James Bond.
Georges Fenech. Bon,
j'avoue que je n'ai pas encore vu.
C'est pour ça qu'on est très prudent sur ce qu'on dit avec Alexandre.
On est très prudent.
On est deux à l'avoir vu. Ouais. Et mais pour moi, Philippe est, je crois, fan, en tout cas par ses enfants.
Ah oui, non, je suis fan et mes enfants. Je voulais aller te voir, mais ils m'ont dit que tu vas pas sans nous. Donc je suis bloqué.
Pour voilà. Moi, aller en numéro, il mérite une bonne engueulade.
Le cinéma, pour moi, ça doit être le rêve. Hein. On doit rêver. Voilà. Et James Bond, c'est un personnage de rêve. Un personnage en norme. Grand séducteur, toujours vainqueur, etc. Là, j'ai le sentiment que ça n'est plus le grand séducteur que l'on connaissait déjà, puisqu'il est monogame, semble-t-il, dans le film. On le voit faire la cuisine.
Non, James Bond, ne dévoile pas tout.
Non, mais ça, j'ai pas dégagé l'intrigue, c'est le personnage, le profil. Ouais. Donc, c'est la fin d'un cycle. On parlait de la fin d'un cycle en politique, mais c'est aussi peut-être la fin d'un cycle de James Bond.
Exactement. C'est la question qui se pose. Est-ce qu'il peut y avoir la fin d'un cycle dans la fiction et dans un personnage aussi important, sur un piédestal que James Bond?
Non, mais franchement, quand on regarde l'histoire de James Bond, moi j'ai toute la collection en clair, en entière, et je la regarde régulièrement.
En VHS.
VHS.
T'as ton magnétoscope.
Donc, quand on regarde, quand on compare Sean Connery, le James Bond des années 60 et Roger Moore des années 70, c'est pas le même.
Non.
Voilà. Et aujourd'hui, ceux qui ont le moins bien vieilli, c'est les Roger Moore. Oui. Parce que, optimisme, alors que l'époque est plus optimiste, pantalon patte d'éléphant, ça fait longtemps qu'on met plus patte d'éléphant.
Il est pour rien.
Et même la question du rapport à la violence. Les derniers James Bond sont beaucoup plus violents que, par exemple, les Roger Moore. Il y avait quasiment un côté humoristique qui a très mal vieilli. Donc le James Bond d'aujourd'hui, il correspond à la période d'aujourd'hui. Enfin, là, les 3-4 derniers, on voit bien depuis Casino Royale, c'est une autre histoire d'un James Bond beaucoup plus noir, beaucoup plus...
Roger Moore disait de Daniel Craig « I was a lover, he's a killer ».
Voilà. Oui, bon,
physiquement
voilà.
D'ailleurs.
Donc en français. Donc donc
ça dit bien. Traduire, hein.
Voilà. Donc ça dit bien les choses. Donc effectivement.
Je pense que tout le monde a compris.
Voilà. Donc non mais donc on voit bien que et d'ailleurs paradoxalement alors pendant longtemps c'est paru comme daté le Sean Connery c'est aujourd'hui vu comme les premiers quelque chose de plus fort alors que les Roger Moore ont très mal vieilli de notre époque. Mais peut-être que dans 15 ans on dira autre chose.
Prisca Thévenot, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui en 2021 d'un James Bond?
Alors pour le coup je ne l'ai pas vu donc je suis merci de ne pas avoir révélé. Mais moi ce que j'attends d'un James Bond c'est exactement ce que vient de dire Alexandre de Vico avant. J'attends d'un James Bond de voir un James Bond.
Moi par exemple,
le séducteur qui va de femme en femme.
Donc un homme.
Je pense que oui.
James Bond est un homme.
Est un homme.
007 est un homme.
Ouais.
Pour vous.
Ouais.
D'accord.
007 est un homme.
Ensuite.
Je vais être très claire, je l'ai pas vu, donc j'entends par contre ce que vous dites. Je pense que oui, il y a des grands sujets de société qu'on peut ou pas défendre. En l'occurrence, bon, ce qui est du woke, je défends pas. Mais en revanche, moi, ce que j'attends d'un moment cinématographique, c'est de pouvoir m'évader, de pouvoir penser autre chose, retrouver les débats de la vie de tous les jours dans ce moment d'évasion, dans ce moment de divertissement. Ouais. Parce que oui, ça reste un moment de divertissement.
Alors que ce James Bond est un James Bond woke, on peut dire.
Ben, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas.
Une part de féminité, une part de romantisme.
Mais moi, je pense qu'on peut... Pardon.
Est-ce que dans la série des James Bond, vous avez sans doute vu les uns les autres, est-ce que, Prisca notamment, est-ce que vous trouviez certains James Bond ou certains épisodes où il était un peu borderline sur certains sujets, notamment vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de... On a dit qu'il était misogyne, on a dit qu'il était... Je pose la question.
Encore une fois, c'est un personnage, je pense qu'il faut prendre le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film de divertissement. Moi, je vais être très claire.
Attention à ce que vous dites. Entre le divertissement et la misogynie.
On va être très claire. On sait quand on va voir James Bond, c'est pas
très
un film. Voilà, quand on va voir James Bond, on sait ce qu'on va voir. On le sait. Donc, je pense qu'aussi, il faut arrêter. C'est pas un film qui vient de sortir, une série qui vient de sortir il y a deux ans. On sait ce qu'on va voir. On a parlé d'un certain nombre d'acteurs. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Pierce Brosnan, etc. Donc, je pense que, évidemment,
c'est
il
votre
ne sait.
Pierce.
Je l'adore. Voilà, vous m'avez démasqué. Vous m'avez démasqué.
Moi, c'est Sean Connery.
Mais on va être très clair, il ne s'agit pas de permettre et de dire que des films doivent véhiculer des idées qui ne devraient pas l'être. Je vais pas commencer une liste à l'après-vert de sujets. Mais James Bond reste l'idée dans beaucoup de choses. de pas mal de critères. Et donc, j'attends de voir ce qu'il en est. Je me ferai mon avis aussi.
Vous voyez, on critique. On est en train de critiquer. Et pourtant, c'est un succès. C'est parmi les plus gros succès aux États-Unis en tout cas. Hein.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on
alors qu'en France, non, il y a un commencement qui est un peu...
Non, mais quand on regarde, sur, par exemple, le rapport aux femmes, c'est vrai que quand on regarde, y compris sur la période Roger Moore, aujourd'hui, c'est les films, comment les femmes sont mises en avant dans les films, ça ne passerait plus. Vous voyez, paradoxalement, la période des années 70 des Roger Moore passe moins bien, même le rapport aux femmes, que les Sean Connery. Aujourd'hui, mais moi demain, si par exemple là j'ai juste vu la bande-annonce, mais il y a une 007 femme noire qui a l'air très... très puissante, très solide. Demain,
la Shana Lynch.
Voilà, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas vu le film, mais je me dis, elle pourrait incarner un 007. Mmh. Parce que la période, on voit bien la montée en puissance des femmes, et ça pourrait être, notamment si on continue sur la logique des femmes killers, comme pour évoquer, je pense que ça peut naître. D'ailleurs, j'ai été très surpris du succès des films comme Wonder Woman. Donc là, qui a eu un énorme succès.
Wonder Woman est un personnage qui existait.
D'ailleurs,
Barbara Broccoli a dit les femmes méritent d'avoir leur propre personnage. Bien. Pas besoin de déconstruire James Bond.
On verra peut-être que le James Bond, peut-être que le Sean Connery de la prochaine séance, c'est peut-être une femme qui va draguer des hommes.
Le futur Wonder Woman est un mec.
Voilà.
On peut aussi accepter quand on va voir James Bond, on a envie de voir un homme, etc. Et puis on peut aussi accepter de ne pas forcément avoir à revisiter en permanence James Bond et peut-être mettre en place une nouvelle série avec une femme aventurière, etc. Je pense que là, il y a aussi un sujet. On parle d'une œuvre aussi à la base.
Non, mais c'est vrai, tu as raison.
De Ian Fleming.
Sauf que là, on a une difficulté. C'est que là, les scénaristes, ils ne s'appuient plus depuis, depuis les films de Daniel Craig. Ils ne s'appuient plus sur. Ils s'en inspirent, oui, mais les romans d'Ian Fleming, il n'y en avait pas fait 50.
Du coup,
ils ne s'appuient plus sur le roman d'Ian Fleming. Donc, du coup, ils sont obligés. En fait, c'est une création en propre. Peut-être que d'ailleurs, les James Bond, en dehors de la qualité de la licence, de ce combien ça peut rapporter, peut-être qu'ils s'arrêteront aussi.
Le meilleur Bond pour vous ? Le meilleur ?
Le meilleur, là, vous me posez une colle, c'est difficile.
Casino Royale.
D'accord.
Skyfall, mais Casino Royale. Donc, Craig a fait des
très bons films. Casino Royale et Skyfall.
Ouais. Et ben voilà. Donc
pourtant, c'est Daniel Craig. Skyfall. Voilà.
Mais ça, c'était.
Alexandre de Vicco, Virois, qu'il faut faire attention. On va appeler Alexandre de
Vicco. Mais ça ne remettait pas en cause les fondamentaux du personnage.
Merci. Ah, si, Virnoir, c'est pas le chimiste, c'est pas la forme.
Merci à vous quatre. Merci à mon équipe. Merci à Yann
Fleming, était assez
sympa. Patouillet qui prépare cette émission. Merci à Guillaume Zorga, Thomas Lacroix, Christopher Filoc, Sébastien. Et merci et Solange à Manon Rostand, chef d'édition à Europe 1, qui nous quitte pour de nouvelles aventures. Merci à toi Manon pour tout ce beau travail pendant toutes ces années.